Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Bonjour et bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison et on espère que vous avez toutes et tous passé un très bel été. Pour cet épisode de rentrée, nous restons les pieds dans l'eau pour suivre le destin de l'une des plus grandes championnes françaises, Laure Manaudou. Son palmarès, 37 médailles internationales, 3 fois championne du monde, 7 fois championne d'Europe, 100 records battus et la plus belle victoire, celle aux JO d'Athènes en 2004. Elle a alors 17 ans seulement. Mais sa soudaine notoriété ne sera pas toujours facile à gérer et sa vie étalée dans la presse People. Électron libre et sportive hors pair, je suis très heureuse de vous raconter son histoire avec mes petits camarades. Olivier.
Oui, bonjour.
Thomas.
Bonjour.
Et Thibaut.
Bonjour à tous.
Et s'il y a quelqu'un qui peut nous présenter Laure Manaudou pour commencer, c'est bien sûr son entraîneur, Philippe Lucas.
Non, mais c'était une grande histoire. C'est une histoire extraordinaire. J'ai eu la chance, dans ma carrière, de rencontrer Laure, parce que c'est une chance. Parce qu'il y a plein d'entraîneurs en France qui, malheureusement, qui sont des très grands entraîneurs et qui n'ont pas la chance d'avoir une athlète exceptionnelle. Et puis, c'est vrai, au fur de ma carrière, après, j'ai eu Camilla Potek, j'ai eu Pellegrini, j'ai eu Levaux, mais d'avoir rencontré Laure, je ne parle pas sur... Bon, bien sûr, quand tu entraînes, ce que tu veux, c'est gagner. Mais aujourd'hui, quand je la croise, là, je vais dans le... Bon, on se croise tout à l'heure, c'était caché, parce que, tu sais, en France Télévisions, tu sais, tu fais les trucs...
Ah, bah c'est un événement, quand même, tu démoules.
Mais non, mais attends, moi, c'est un truc, je te regarde pas, machin, t'es dans le truc, un truc de... C'est une pipe, quoi, complet, quoi. Et quand on se croise avant, là, il y a un truc, il y a quelque chose de fort qui est entre nous deux, quoi, je veux dire... Moi, je l'adore, c'est une fille que j'adore. Elle m'a fait chier, elle m'a cassé les couilles. C'était un...
Ça, c'est dit, ou moi.
Non, mais par contre, grâce à elle, parce qu'il faut reconnaître les choses, grâce à elle, parce que quand tu entraînes, si t'as pas l'athlète pour faire des grandes performances, ça n'existe pas. Grâce à elle, j'ai vécu des grandes choses.
Et voilà, Philippe Lucas dans toute sa beauté, sa finesse et son humour. Mais nous reviendrons sur le personnage au cours de l'épisode. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question pour vous. Vous êtes comme des petits poissons dans l'eau, vous aimez nager? Non, c'est pas vrai, c'est pas ça la question.
Ah, moi j'adore nager, j'avais prévu d'en parler. D'abord, entre 6 et 8 ans, j'ai nagé à la piscine à Caen, c'était bien. J'aimais beaucoup.
Non. Alors, moi j'ai une anecdote, c'est que quand j'étais petite, j'étais un peu garçon manqué et j'adorais l'eau et surtout j'adorais sauter de très haut. Et la première fois que j'ai sauté du 5 mètres, je devais avoir 7 ans. Et il y avait un peu des meufs qui avaient 15-16 ans, qui se la pétaient et tout sur le plongeoir, qui disaient « Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? On va y aller et tout. » Et genre, j'étais arrivée et elles étaient « Vas-y, laisse passer la petite, elle sautera jamais. » Et j'avais sauté, j'étais super fière. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça.
Ah, c'est pas mal.
Moi, ça me rappelle les toboggans et je faisais un toboggan quand j'étais petit et je me suis coupé le doigt. Mais vraiment, ça pissait partout du sang. Désolé hein, pour ce... C'est dans le petit bassin.
D'accord.
Et les gens ont mis du temps avant de voir que je m'étais coupé. Et moi aussi, parce que je n'avais rien senti. C'est dégueulasse. Voilà.
Non, mais en vrai, plutôt la vraie question, sauf si Thomas, tu as une anecdote piscine à partager.
Sur le plongeoir à 5 mètres.
Bien sûr. Alors, j'allais attendre la question parce que c'était peut-être la question à laquelle je voulais répondre. Des anecdotes piscine. J'ai été joueur de waterpolo.
D'accord.
Pendant un mois. Puisque j'ai fait un entraînement, donc je considère que c'est un mois parce que je me suis inscrit en septembre et j'ai été une fois. Et il faut savoir qu'au water polo, tu fais d'abord un échauffement qui s'appelle un épuisement, puisque tu es épuisé pour faire des longueurs. Et après, le coach il te dit bon, maintenant, non, lâche le bord. Comment ça, lâche le bord? Je suis fatigué. Ben, si tu tiens le bord de la piscine, tu sors de l'eau.
Dessus.
Je suis sorti de l'eau, je suis jamais revenu. Voilà.
Et t'as gardé ton bonnet casque?
J'ai gardé
on
mon
donnera
bonnet.
Les images voilà, sur Twitter.
D'ailleurs Thomas n'a que le bonnet ce soir. Hein.
Mais on aime bien ça. Non, plutôt, quel regard vous portez sur Laure Manaudou et sur sa carrière? Est-ce que Thomas, tu veux commencer?
Le regard que je porte, c'est que je me dis, elle avait l'air assez forte quand même à la piscine, non, en natation. Oui, le regard que je porte, c'est que je me dis que bon, on a quand même affaire à une grande championne qui est assez précoce en plus. Et ça a laissé. Bon, alors j'ai eu la chance de la connaître pour le coup, enfin pas personnellement. On est né la même année, donc j'ai pu suivre ses exploits à la télé. Et pour le coup, j'avoue que j'ai été assez séduit par sa courte carrière, mais j'ai vraiment bien aimé.
Il faut savoir que Thomas, il ne suit les personnes qui sont
des Animaniacs. Oui, sinon il ne suit pas. Toi, Olivier.
Moi, je me souviens très bien de son 400 mètres aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas pourquoi, j'étais devant la télé à ce moment-là et j'avais trouvé ça absolument incroyable. Je ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et ensuite, c'est intéressant toujours de faire une émission, on en parlait tout à l'heure, sur une personne qu'on a vue, enfin dont on a suivi la carrière et l'avènement en même temps que, voilà, en vrai. Je me souviens de Philippe Lucas aussi au Guignol, et de Philippe Lucas général, et puis c'est tout. Je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle beaucoup Domenech, parce que la période Manodou, c'est vraiment la période Domenech aussi. Donc à la fois, il y avait Manodou qui était très forte, etc. Et c'était terrible. Voilà, bon, bref.
Et toi, Thibaut ?
Alors moi, je l'aime, Laure.
Ah, déclaration.
Non, quand on regarde du sport, quand on est petit, il y a des sports où on a envie de gagner, mais on gagne jamais quand on est français. C'était vrai, par exemple, aux 4x100 mètres en athlétisme. C'était vrai sur la natation en règle générale, tout confondu. Et elle, justement, elle nous a fait gagner dans les sports dans lesquels on croyait qu'on ne gagnerait jamais. Donc moi, pour moi, ça a une valeur inestimable et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, tout est possible. L'équipe de France est super forte et d'ailleurs, elle a été super forte en natation à partir d'elle pendant au moins 10 ou 15 ans derrière ou quasiment. Donc j'en ai, comme tout le monde, un souvenir génial. Je suis né aussi à peu près dans les années de Laure Manaudou et elle m'a laissé l'image d'une vraie gagnante. Et même ses histoires après, les allers-retours et tout, je trouve que ça n'a rien abîmé vraiment. Elle n'est pas si agaçante que ça. Elle est finalement assez sympa. C'est une femme relativement ordinaire maintenant. Et ouais, elle me plaît beaucoup. Le profil me plaît beaucoup.
Moi, je trouve que, en fait, c'est l'une des premières athlètes qui te fait découvrir qu'en fait, c'est dur d'être une athlète. Enfin, je sais pas, c'est un peu débile, on le sait, mais on l'oublie un peu. On voit juste les paillettes, les victoires, le côté de la célébrité, etc. Et en fait, elle avait quelque chose de très, très vulnérable, de très authentique, qui peut parfois être un peu agaçant aussi, finalement, parce que c'est vrai qu'en fait, les personnalités publiques, tu leur demandes de cacher un peu certaines émotions, etc. Et elle n'avait pas du tout ce filtre-là, finalement. On reviendra dessus, mais c'est un peu fou que, quelqu'un qui n'aimait pas l'entraînement, qui a toujours trouvé ça dur, qui a vécu ça douloureusement, et en même temps, quand on l'entend parler, on en reviendra dessus, qui dit qu'elle regrette rien non plus, que si elle n'aurait pas envie de prendre d'autres décisions. Entrons dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu d'où vient Laure Manaudou ?
Eh ben, grâce à Laure, on comprend que le sport, c'est génétique. Uniquement génétique. Et on va faire un cours de biologie. Elle est vraiment issue d'une famille de sportifs. Elle a des parents qui s'appellent Olga et Jean-Luc, qui chacun ont pratiqué un sport à niveau amateur ou un peu plus qu'amateur. Le père était handballeur. Il jouait dans un club en National 3 à Vaux-en-Velin. National 3, ça veut dire quand même que t'es assez bon quand tu fais du handball, quoi. Un bon niveau amateur. Sa mère, elle, était joueuse de badminton, d'origine hollandaise. Donc, c'était deux physiques assez imposants, tous les deux. Ce qui explique aussi le physique de Laure et le physique de Florent, qui sont tous les deux prêts à faire de la natation. Florent, c'est son petit frère, on en parlera peut-être un petit peu.
Oui, et elle a un grand frère aussi, Nicolas. Ouais. Et qui vont tous être dans le domaine de la natation.
Nicolas,
en fait,
que l'on parle peu, parce qu'on parle toujours des parents, comme les parents, ils ont créé deux champions, mais Nicolas, c'est aussi un champion dans son style, parce que c'est l'entraîneur qui est quand même très, à mon avis, très demandé, même s'il ne suit pas la carrière entraîneur professionnel comme peut être Philippe Lucas. Et c'est drôle, parce qu'il est né le 1 an, jour pour jour, avant Laure Manaudou.
Ah oui, c'est comme
Qu'un an d'écart.
Griezmann et ses trois enfants.
Griezmann, ses trois enfants sont nés le même jour, tu savais, Thibaut ?
Ah ouais, l'avais oublié.
D'années différentes, mais...
Mais du coup, parce que je m'étais dit aujourd'hui que j'allais faire toutes les blagues que j'avais écrites sur mes feuilles.
T'as très mal commencé, parce que quand t'as dit la mère Olga, t'as dit comme le chien de Michel Drucker.
Et tu l'as oublié.
Et ma meilleure blague, c'était quand même de dire qu'elle était née 100 ans après Younes. et celle-là aussi tombe à l'eau.
Et tombe à l'eau comme Laure Manaudou. Il est très important parce qu'il va entraîner Laure et même Florent. C'est lui le meneur d'hommes. Enfin, c'est lui vraiment le meneur d'hommes dans la fratrie des trois. Il est très important pour ces deux...
Oui, parce que tous les prédisposent...
Son frère et sa sœur.
Peut-être peut-être à faire du sport, mais pas spécialement de la natation. Enfin, oui. En tout cas, on n'en sait rien. Alors qu'une fois que le premier a voulu faire de la natation, ensuite, il va emporter les autres. Donc,
il faut savoir qu'en plus, ils sont après l'école, ils sont obligés d'aller à la natation. Et au départ, c'est pas forcément dans le but d'en faire des champions, mais ça reste des parents qui aiment bien. Donc, c'est les parents sportifs de haut niveau. Donc, il y a quand même l'idée d'avoir un objectif. Ce que Laure ne demande, Manonou, pour le coup, ne demande pas à ses enfants. Voilà.
Oui, ouais, c'est ça. Pour
faire du sport un peu plus librement.
Et sur le choix de la natation lui-même, j'avais vu que le père disait, bon, comme tu le disais Thomas, il fallait faire un sport après l'école ou après la journée. Et la natation, il y avait la piscine qui était à côté de chez soi, donc c'était pratique, on a fait la natation, mais ça aurait pu être un autre sport.
Parce que toi Thibaut, c'était de l'haltérophilie, hein, c'est ça?
C'est tombé sur ça, je ne suis que vice-champion d'Europe.
Du coup, et moins beau destin que Laure. Mais d'ailleurs, elle raconte, Laure Manoudou, que déjà à l'époque, elle n'aimait pas du tout aller à la piscine, parce qu'en fait, elle y allait avec ses frères, mais ils aimaient pas trop être avec les autres enfants et ils aimaient pas trop les règles, etc. Enfin, elle disait, moi j'avais envie de sauter dans l'eau, faire des bombes, etc. Mais aller m'entraîner, j'aimais pas trop ça. Mais peut-être avant de parler un peu de tout ça, de la natation, il y a quand même quelque chose. On a parlé des parents sportifs, d'allure, c'est des athlètes. Mais il y a aussi le mental dans la famille Manoudou, et je pense que ça, en vrai, je pense que c'est un truc de folie comme ça.
Ouais, la mentalité, ça, en tout cas celle que tu veux donner à tes enfants, ça marche pas forcément à chaque fois, mais là, ouais. En l'occurrence, le père, il disait, ok, tu fais du sport, tu seras pas forcément champion olympique, mais si tu le fais, tu te fixes des objectifs, tu dois les tenir. Bon, rien que ça, quand tu vas à la piscine et que t'as 6 ou 7 ans, ça te donne un peu le cadre. Ouais. Et la mère, qui est plutôt dans une éducation relativement positive, elle dit, t'as le droit de rater, tu peux rater, mais si tu fais quelque chose quand même et que tu le rates, il faut comprendre pourquoi t'as raté et il faudra essayer de faire mieux la prochaine fois.
Ça fait petit contraste quand même avec ma maman qui, quand je revenais du foot, j'étais en équipe C, on prenait, c'est pas une blague, tous les week-ends des 18-0. Elle me disait, oh, j'espère que tu t'es bien amusé quand même. Voilà. Non,
c'est pas tout à fait ça.
Mais à côté de ça, paradoxalement, ils laissent quand même une liberté à leurs enfants. En tout cas, à la suite de la carrière, ils vont quand même prendre en main la carrière de leurs enfants. À un moment donné, on y reviendra. Manoudou dit, je veux me consacrer à la natation. Alors, oui, il faut que tu sois la meilleure, mais malgré tout, ok, tu peux arrêter tes études pour te consacrer à ta passion, en fait. Enfin, ce qui est devenu peut-être sa passion. Est-ce que c'était sa passion? Ça, c'est un autre débat. Mais
t'as raison, il y a quand même une folie douce chez les parents. Enfin, c'est-à-dire, c'est quand ils disent, on a pris les rêves de nos enfants au sérieux. C'est assez joli comme formule. C'est de dire, on vous met pas trop la pression, mais un peu quand même. Si vous voulez y aller, on est chaud, on peut arrêter ce que vous voulez.
Et après, c'est des parents qui, certes, peut-être avaient un côté un peu dur, mais Jean-François Salessi, qui était donc l'agent de Laure et Florent, disait qu'il avait une image d'eux assez dure, à la limite de l'abandon, et qu'en fait, il a découvert des gens très présents, des libéraux rigoureux, ils cadrent les choses, mais laissent les enfants maîtres de leur choix. Et par exemple, Laure, elle témoigne que ses parents sont toujours venus la voir à toutes les compétitions, enfin, ils étaient vraiment derrière leurs enfants, à donf.
Oui, t'as envie de voir le profil de quelqu'un, soit d'extrêmement dur, ou de pas dire du tout, c'est toujours plus complexe que ça. En tout cas, les parents Manoudou sont beaucoup plus complexes que cela.
Oui, et puis ça avait l'air assez comme presque tous les parents. Il y a Laure Manoudou, elle explique dans une interview que sa maman, quand elle est en train de nager, elle crie, elle la pousse derrière. Et comme tout gamin, ça lui fout la honte. Arrête de crier,
ouais,
etc.
J'adore.
Voilà. Donc ça reste assez simple, en fait, dans la.
Ouais. Non, mais c'est ça. Et donc au final, ils vont commencer la natation tôt. Enfin, Laure va commencer la natation tôt, vers 6-7 ans. Et elle va continuer assez naturellement jusqu'au début de l'adolescence, sans trop se poser de questions. Ça lui plaît, ça lui plaît pas, elle sait pas, mais elle continue.
Et donc, il y a un podcast qui, je crois, n'existe plus aujourd'hui, mais que vous pouvez quand même retrouver sur les bonnes plateformes, qui s'appelle Le Spotlight. Donc, c'est l'interview d'un ou d'une sportive. Et il y en a un avec Laure Manoudou que je vous conseille. Et c'est marrant parce qu'elle lui demande « Est-ce que tu rêvais d'être nageuse quand tu étais petite ?» Elle disait « Non, au début, non. Au début, je voulais peut-être être prof de PS. Mais en fait... je me suis rendu compte que c'était beaucoup d'études, et puis moi j'aimais pas trop l'école, etc. Et il y a ce truc, comme tu dis, où ses parents ont complètement accepté qu'elle n'était pas faite pour de grandes études, etc. longtemps, et qui ont complètement accepté qu'elle se consacre à la natation. Et une autre anecdote que j'aime bien aimer, c'est qu'elle raconte qu'elle regarde les JO de Sydney en 2000.
Et donc elle a 8 ou 9 ans? Non, elle a déjà 13 ou 14 ans.
13 ou 14 ans. 12 ans, 12 ans même, je crois. Enfin, 12 ou 13 ans.
En 2004, elle a 17 ans.
Ouais, donc 13 ans.
On est bon en maths. Ouais. Là, on va faire un podcast.
Donnons-lui
13 ans. Et elle dit, je me dis, moi, j'aimerais bien gagner une médaille un jour. Mais je me dis pas, je vais tout mettre en œuvre pour le faire, mais j'aimerais bien, ouais, comme ça, sympa. Et c'est justement à peu près à cette période hein, qu'elle va faire...
Elle va plus ou moins remplir les objectifs.
Oui, plus ou moins, tout à fait. Qu'elle va faire une rencontre qui va changer sa vie.
Mais avec qui donc ?
Avant ça, Thibaut, secret, avant ça, je vous propose un petit 60 secondes chrono.
Donc là, j'ai 60 secondes pour vous expliquer ce qu'est la natation. Non, ça va être
50,
très pénible.
50 maintenant.
Non, 4. Mais on s'est dit qu'en en à peine deux longueurs, même moins que deux longueurs, en 48 secondes de Michael Phelps, j'allais vous expliquer comment se déroulait la natation. Donc la natation, pour faire simple, vous avez peut-être déjà entendu parler, il y a les petits et les grands bassins. Les petits bassins, c'est pas vraiment les pataugeoires dans lesquels vous mettez vos gosses. C'est pas ça.
C'est pas le truc où il faut faire les pieds là pour les arrêter.
Non, pas vraiment. Les petits bassins, ce sont des bassins de 25 mètres. Donc c'est déjà à peu près toutes les piscines dans lesquelles vous allez quand vous n'allez pas dans des piscines dites olympiques, qui sont les grands bassins qui eux font 50 mètres. Et quand vous regardez les JO à la télé, vous êtes dans des grands bassins. Mais il y a aussi des tonnes de compétitions en petits bassins, des championnats du monde, des championnats d'Europe. Et dans les petits bassins, on bat des records encore plus forts que dans les grands bassins parce qu'on bénéficie à chaque fois de la poussée. On peut pousser au mur et on est très fort quand on pousse au mur. Donc ça, c'est la grande différence de base en natation. Ensuite, vous vous en rendez sûrement compte, il y a quatre nages. Et ça, c'est quand même important. Il y a la première, on appelle cela la nage libre. En fait, la nage libre, dans 100% des cas,
c'est du crawl.
C'est du crawl.
Mais
pourquoi
moi, ça m'énerve qu'on appelle ça nage libre. Alors, et pas crawl.
On l'appelle comme ça parce que si tu veux nager une autre nage, une nage indienne, si tu veux, tu peux le faire. Mais
après, tu peux faire du dos, hein,
tu vas perdre.
Ouais. Mais comme c'est la nage la plus rapide, on te dit, tu fais celle que tu veux, mais va le plus vite possible.
Est-ce que tu peux faire de l'apnée?
Alors oui, et nous vous renvoyons vers un excellent épisode de PO. Ensuite, il y a le dos. Donc là, on nage sur le dos. Vous savez tous nager sur le dos, bien sûr.
Oui.
Il y a le papillon. Donc
ça, c'est
des mouvements qui passent au-dessus de la tête et au-dessus de l'eau, des mouvements de mains qui ressemblent un peu à
ça. On croit tous savoir le faire, mais c'est
personne ne sait
moche.
Le faire.
Ça met beaucoup de doigts à côté.
Ça ressemble un peu à quand Younes se noie à la piscine de Créteil. C'est à peu près ça.
C'est
vous voyez ?
Oui.
Et puis la dernière, c'est celle sûrement sur laquelle vous avez tous appris à nager, c'est la brasse. Souvent sur les distances courtes. Et justement, on en vient aux distances. Parce que les distances, vous pouvez nager de 50 mètres jusqu'à 1500 mètres en piscine.
C'est pas le même effort.
C'est pas le même effort. Alors, sans rentrer dans les détails, en gros, le dos, le papillon, la brasse, vous faites toujours des distances courtes, c'est-à-dire 50, 100, 200 mètres. En revanche, au crawl, c'est-à-dire à la nage libre, vous pouvez aller jusqu'à 400, 800, 1500 mètres. Et on peut même dépasser les 1500 mètres. Et dans ce cas-là, on bascule sur des bassins qui ne sont plus des petits ou des grands bassins, mais c'est de la nage en eau libre, comme vous l'avez peut-être vu aux Jeux Olympiques, du 10 km par exemple. C'est-à-dire qu'on est là dans des,
dans des lacs,
on est dans les lacs.
Des
donc voilà, en gros, les distinctions.
Ça, c'est très chaud. Hein.
Ça, c'est très chaud.
Non, mais la différence entre nager dans la mer en mode machin, et sur un bassin, c'est la différence est énorme.
C'est les distinctions majeures à connaître en natation. Après, on pourrait vous parler d'un tas de bouleversements qu'il y a eu à travers les époques, comme dans n'importe quel sport. Peut-être la chose que la plupart des auditeurs ont en tête, c'est que quand ils étaient petits ou un peu moins petits, ils ont vu des gens nager avec des espèces de combinaisons en peau de requin, par exemple, qui venaient nager très vite. Ça a duré pendant 10 ou 15 ans.
Et il y a eu des interdictions de certaines combinaisons.
Exactement.
Des trucs comme ça.
Les records étaient tous battus. C'était des combinaisons un peu particulières. Cette époque, elle est un peu derrière nous. On est revenu à du textile aujourd'hui, un peu plus classique, du tissu.
C'est trop marrant, ça.
C'était assez drôle. On s'apercevait que les mecs étaient tous forts. Alain Bernard, notamment, qui était un champion français qui battait beaucoup de records.
Dans les vélos, tu mets un truc pour électrique caché et les nageurs mettent des combinaisons surperformantes.
Peut-être qu'ils peuvent mettre des trucs électriques cachés.
Dans
hein.
C'est vrai.
Des petits moteurs.
Des moteurs.
Donc maintenant, tu t'es dans les fesses, pardon, c'est moi.
Je pense que maintenant,
vous êtes
tous aptes à comprendre cet épisode sur la natation.
On vous a donné toutes les clés. Et donc, Thomas, de qui allons-nous parler ? Quelle est cette rencontre que Laure va faire à 14 ans et qui va changer sa vie ?
Alors, Philippe Lucas, Philippe Lucas, tout à fait.
Non, mais tu as dit.
Je voulais compléter en disant qu'il y a certaines piscines dans lesquelles, toutes les 30 minutes, il y a des vagues. Voilà, c'était une petite.
Genre,
comme Aqua Boulevard.
Oui, comme à Aqua Boulevard. Et c'est aussi une autre sorte de piscine où c'est très sympathique.
Ouais. Puisqu'on est sur les anecdotes, alors je suis pas sûre à 100% que ce soit vrai, mais on m'a raconté que la piscine olympique de Saint-Germain-en-Laye, on l'a construite en se disant qu'on va pouvoir accueillir des compétitions. Et qu'en fait, ils se sont aperçus qu'il manquait genre 5 cm ou un truc comme ça. Et donc, elle ne pouvait pas être homologuée.
Incroyable.
Et donc, ils ne peuvent pas accueillir de grosses compétitions.
J'y crois totalement. C'est que j'avais eu la même histoire sur Montpellier où je crois qu'il manquait 1 ou 2 cm pour homologuer des records.
C'est comme l'histoire du tram de Marseille où ils ont fait tous les travaux du tram pendant 10 ans. Ils se sont rendus compte que les trams ne pouvaient pas passer sous les tunnels qu'ils avaient creusés.
Non.
Alors ça, c'est beau.
Si, bien sûr.
Wow. Très, très beau.
Godin, il nous manque.
Vous voyez, on vous apprend beaucoup de choses.
Et oui, c'est beaucoup. Un podcast pédagogique.
Alors, c'est qui Philippe?
Philippe Lucas, c'est un entraîneur, donc entraîneur de natation, qui a commencé à 21 ans à entraîner, parce qu'il le dira lui-même. Il n'était pas hyper doué. Il disait qu'il n'avait pas forcément les qualités physiques pour
être un grand nageur.
Et
c'est drôle,
même,
ça.
Il dit, j'étais une tringle.
c'est globalement, Philippe Lucas, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui a beaucoup de lucidité en lui, et sur les autres.
Aussi, avant tout. Voilà, c'est quelqu'un qui a un franc-parler qui est assez nature et naturel. Et donc ce monsieur Philippe Lucas, il aime bien aller voir les championnats de France pour aller repérer quelles sont les petites pépites. Mmh. Et il faut savoir que Laure, quand elle a 14 ans, elle va aux championnats de France. Ils ont lieu à Chamalières, c'est dans le Puy-de-Dôme. Et il faut savoir que à ce moment-là, donc Laure, elle n'est pas hyper connue du public.
Et non, c'est vraiment sa première grande compétition nationale.
Personne ne la connaît même.
Personne. Mais Philippe, lui...
Si, ses parents la connaissent.
Oui, ses parents.
Son frère aussi, probablement ses amis.
Ouais, le maire de Chamalières, peut-être.
Enfin, en tout cas, c'est une des premières compétitions. Ouais. Et elle va enchaîner après avec des championnats d'Europe junior, c'est ça ?
Exactement. Et à ces championnats d'Europe junior, elle est très jeune et elle termine déjà deuxième sur 100 mètres d'eau derrière quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Roxana Maracineanu, qui est notre ministre actuelle des sports, qui était championne du monde à l'époque. Et donc, Philippe Lucas, il regarde ça, il dit, elle a l'air forte, elle a 14 ans, elle est super forte, mais surtout, elle est en train de pleurer sur le podium parce qu'elle a terminé deuxième, elle est énervée, est deuxième derrière la championne du monde, elle avait aucune chance de gagner, mais elle se satisfait pas de ce résultat.
Et il faut savoir, ce qui est assez sympathique, c'est qu'elle en était fan, en fait, de Roxana Maracineanu. J'ai un peu du mal à prononcer le nom. Maracineanu. Et elle lui a écrit une lettre lorsqu'elle avait justement 13 ans pour comparer un petit peu ses temps. Résultat. Et elle n'a jamais eu de réponse. Ouais. Bon, elle s'excusera à l'âge qu'elle a aujourd'hui en disant « Je comprends maintenant pourquoi elle ne m'a pas répondu, parce qu'effectivement, nous recevons beaucoup de lettres. »
Oui, voilà. Et c'est dur, ouais.
Mais ouais. Philippe, là, il se dit « alors, elle en veut, quoi. Elle en veut et ça fait
pépite. »
Il dit ça, vraiment que ça, comme ça ?
Ouais, elle en veut.
Donc il va la prendre sous son aile et alors moi on peut peut-être parler d'un petit peu du style de la méthode Philippe Lucas qui est un entraîneur qui aime l'effort, on va dire. Sa phrase c'est quand tu travailles pas t'auras rien, et puis même si tu travailles, ça se trouve t'auras rien non plus.
Donc on connaissait travail famille patrie, là on est dans travail voilà. Philippe c'est un mec qui entraîne à la dure. Il pense que la répétition des efforts est importante comme tous les entraîneurs, mais lui il mène vraiment la stratégie jusqu'au bout, et très vite elle va enchaîner des longueurs et faire 18 km de natation par jour, ce qui est monstrueux.
Et peut-être avant de passer à son entraînement, je voudrais vous faire écouter un extrait en fait où elle explique comment Philippe Lucas propose à ses parents de la prendre sous son aile, parce que ça c'est très frappant. Elle va vraiment quitter le domicile familial pour aller s'installer chez Philippe Lucas et s'entraîner. Et surtout, Philippe Lucas il dit quelque chose à son père quand il lui propose de prendre Laure sous son aile. Écoutez.
J'ai voulu repasser ces images-là, alors, parce que je sais que ça a été très important pour vous. Il y a un petit truc aussi que vous racontez dans le livre, c'est que finalement, quand Philippe Lucas convainc vos parents de vous laisser partir avec lui, puisqu'à l'époque, vous avez 14 ans, d'habiter chez lui, il le promet à votre père, cette médaille d'or. Non, c'est vrai, il le promet et il dit... Et ça, vous le savez pas?
Non.
Ouais.
Non, et heureusement, puisque je pense que j'aurais beaucoup trop de pression à l'âge de 17 ans, de 14 ans, de me dire, il a dit à mon père que j'allais être championne olympique, donc il faut pas que je me plante, il faut que je sois, même si moi, c'était mon but, de voir qu'il y avait mon entourage proche qui avait les mêmes buts que moi, ça m'aurait un peu ré, je pense.
Il a lu le livre, Philippe Lucas.
Je pense qu'il s'en fout.
Mais si. Il s'en fout.
Ouais, il s'en fout, puisque les moments qu'on a passés, le reste, je pense pas que ça l'intéresse, puisqu'il me connaît comme sa nageuse, comme la fille de 14 ans à 20 ans qu'il a entraînée. Ouais. Et je pense pas qu'il a envie de connaître pourquoi je me suis entraînée à 6 ans et tout ce qui s'est passé.
C'est quand même culotté d'aller dire elle sera championne olympique.
Surtout que Philippe Lucas, c'est un entraîneur qui a pas beaucoup de références à l'époque. C'est-à-dire, c'est un bon entraîneur de natation, mais il peut pas dire j'ai déjà entraîné machin et machin qui sont championnes du monde, je ferai pareil avec votre fille.
Sauf que Lucas, et là où je n'étais pas spécialement un grand fan a priori du personnage, ce qui m'a plutôt touché, c'est que lui, il a toujours voulu être entraîneur. Il s'est toujours dit, et il le dit dans un reportage, il dit, moi quand je jouais au foot dans ma cité là, je voulais jouer toujours être le capitaine de l'équipe. et si possible dans la pire équipe, parce que ça me faisait plaisir d'essayer de tirer les gens vers le haut.
Mais voilà. C'est vrai qu'on voit qu'il a ça en lui, ça c'est évident.
Avant l'or, je crois qu'il a quand même deux nageuses qu'il va emmener au JO, après qui ne feront pas forcément des résultats extraordinaires, dont d'ailleurs son ancienne compagne,
Julia Reggiani.
Exactement.
Et d'ailleurs, il a entraîné une autre personne qui est devenue sa compagne, qui est Camélia Pontec, qui elle finira à Athènes, au fameux 400 mètres, quatrième, presque au...
Et donc, il faut quand même imaginer ce que c'est. Laure, elle a 14 ans et elle part donc à 400 km du domicile familial pour vivre au début dans la maison de Philippe Lucas. Il faut accorder une sacrée confiance quand même quand tes parents pour laisser ta fille partir comme ça, quoi.
Ouais, exactement, parce que lui, il a ses attaches ailleurs, il a ses attaches proches de Paris. Ils vivent près d'Oyonnax et donc il faut partir. Donc il faut vraiment adopter un nouveau style de vie et vivre dans la maison de son entraîneur, ce qui n'est pas simple à l'adolescence pour une jeune fille.
Non, mais d'ailleurs, elle dit, je sais que j'ai une adolescence différente, mais elle le vit sans regret. En tout cas, elle dit, mais c'était ça ma vie.
Elle part quand même avec un type qui a 73 colliers, qui te fait pipi dans ton bol pour rigoler.
Elle dit qu'elle a été un peu apeurée par son profil, c'est vrai, au début. Et très vite, c'est là où c'est ce qu'on disait sur... Les parents vont plus que jouer le jeu, parce qu'ils donnent leur fille pour qu'elle parte à 13 ans du domicile familial. Et ensuite, un an plus tard, quand les entraînements s'accélèrent, elle veut arrêter ses études, parce que ça devient trop compliqué de combiner les deux. Et les parents sont plutôt d'accord. Alors, c'est assez cohérent quand tu laisses ta fille partir avec quelqu'un à 13 ans ou 14 ans. Derrière, bon, tu te dis, tu le fais pas pour rien.
Faut y aller à fond,
mais quand
quoi.
Même. Mais là, on retrouve la logique du père. Ok, tu peux le faire, mais ça serait bien si tu étais championne olympique, quoi. Enfin, si c'est pour être championne ou la meilleure du monde, très bien.
Alors, quand même, l'entraînement, c'est 6h45 tous les matins à la piscine de Melun. Personnellement, je crois que je suis pas capable.
Non. Moi, je suis pas capable.
Mais il faut se dire que la natation, c'est vraiment peut-être plus que beaucoup d'autres sports encore, un sport de répétition. C'est dur, c'est très monotone, parce qu'il y a des sports où tu fais des tonnes d'entraînements différents pour arriver à tes fins. Là, il faut te cogner ton petit mur de béton et te faire des allers-retours indéfiniment. Et ouais, c'est très très compliqué.
Et d'ailleurs, on l'a dit, hein, et Philippe Lucas, il a quand même un style assez dur. Il y a des images aussi, enfin, où vraiment il hurle dessus en lui disant, là t'as été nul, si tu veux pas travailler, barre-toi, etc. Moi, ça m'a un peu choqué.
Aujourd'hui, tu fais de la merde, tu rentres chez toi, tu reviendras quand tu auras envie de bosser.
Et en même temps, y a, sur un reportage, là, je le voyais, il parlait à une nageuse de nage libre, 10 km, là. Et la nageuse était là, je sais pas, je le sens pas. Comment ça, tu le sens pas? Si, tu le sens. Non, je le sens pas. Si, tu le sens et tu vas gagner. Non, je veux pas. Si, putain, tu vas gagner. Ferme ta gueule maintenant. Et ce qu'il dit, c'est que les gens, il faut qu'ils aient confiance. Donc, cette confiance, ça s'amène aussi par, à un moment donné, la persuader qu'elle va réussir.
Et en tout cas, vas-y Thomas, je t'en prie.
Non, je trouve que dans le sport, alors je suis pas un sportif de haut niveau, mais il y a des...
Quand tu fais ta spéciale au five, excuse-moi.
La spéciale au five, non mais pour le coup, pour avoir pratiqué un peu le sport qui m'a mis le plus dans le rouge, vraiment c'est la boxe en l'occurrence. Et c'est vrai que quand on va vraiment dans le rouge, il y a... C'est là que je peux comprendre aussi le côté Philippe Lucas qui va vous pousser, etc. Je pense qu'on est en plus dans l'eau. Enfin, je pense qu'on est hyper. Enfin, moi, je suis hyper fragile dans l'eau puisque je nage vraiment très très lentement et je peux me noyer à tout moment.
Mais c'est pour ça qu'il ne t'a pas choisi.
Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas été choisi.
Malière, je te rappelle que ton record au 100 mètres était 25 mètres.
Voilà. mais non, quand tu te mets dans le rouge, vraiment, t'as quelque chose où t'as plus. Ton cerveau, il est un petit peu cassé et je pense que
t'as besoin de cri.
T'as besoin de crier. Je pense que quelqu'un qui te crie dessus, soit tu sors et tu lui colles une beigne, ou alors t'es là, tiens, tu vas voir. Et c'est ça, tu peux le retrouver quand vraiment tu vas te mettre dans le rouge et c'est ce qui fait que les gens aiment faire du sport. En fait, c'est vraiment aller chercher la limite et si t'as quelqu'un qui derrière, après faut adhérer au discours, mais vient encore plus te pousser, la preuve en est, c'est que tu
t'en as besoin
de certaines choses, quoi.
Encore une fois, faut se dire que c'est un sport vraiment très aliénant, très écœurant, en fait, la natation. Il y en a peu qui font 10, 12, 15 ans de carrière, à moins d'être un autiste comme Michael Phelps et de gagner, c'est très dur, si tu veux. Tu te rends compte, par exemple, toi, tu nages, et tous là, vous nous écoutez, vous nagez beaucoup, un peu. Est-ce que vous avez déjà fait 18 km une seule fois, un jour dans votre vie? Elle le fait tous les jours de la semaine.
Un jour, j'ai fait 18 mètres. Et surtout, il y a un truc. moi quand je fais les longueurs, parfois ça m'arrive d'aller à la piscine. Dans ce cas, je crois nager, savoir nager, je sais pas du tout nager. Mais déjà, tu fais 25 minutes de nage, 30 minutes, tu te fais chier comme un rat mort.
Exactement.
Je faisais 18 km, mais tu penses à quoi?
Donc t'as vraiment besoin de ce repère ou de ce gourou qui va te dire, allez, vas-y, déglingue tout. Vas-y.
Je me pose quand même beaucoup de questions parce que 18 km, elle fait combien d'heures de natation par jour, ce que j'ai essayé? Alors je sais que je nage pas très vite.
Alors c'est pas
pour faire 1 km, j'ai mis 40 minutes.
Mais
je sais que je suis très nul, mais ça fait quand même beaucoup de temps dans l'eau.
Alors elle le fait plus rapidement, en effet, mais ça fait beaucoup d'heures, t'as raison. Après, c'est-à-dire, faut vraiment nager.
C'est 15, 16, 18, on sait pas vraiment ce qu'elle faisait par jour. Ça change, mais enfin, même 15.
Elle peut atteindre pas loin de 100 km par semaine, quoi. Elle est à 90.
Elle doit 95. Avoir la peau fripée.
Mais de toute façon, en vrai, les muscles des nageurs et des nageuses prouve que enfin c'est pas pour rigoler,
après,
ils sont vraiment
surtout,
hyper oui. affûtés.
C'est ce que tu dis, c'est vrai, et surtout Laure Manaudou qui pour le coup avait le physique dans la catégorie féminine pour le faire parce qu'elle avait des bras qui sont très 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 grands, très imposants, ce qui fait qu'elle faisait des grands gestes très amples, ce qui fait qu'elle avait une longueur d'avance toujours, et surtout ses grandes jambes faisaient qu'elle faisait deux battements alors que les autres en faisaient quatre, donc elle pouvait finir très 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 fort la fin.
En tout cas, moi je trouve ça assez touchant ce qu'elle dit de sa relation avec Philippe Lucas, parce que il y a eu des moments de tension. Aujourd'hui, ils ont plutôt l'air d'avoir une relation apaisée, où elle dit « Il y a deux Philippe, l'entraîneur impitoyable et cinglant, capable de m'insulter s'il estime que je ne travaille pas assez bien, et le copain, le chahuteur bienveillant qui me laisse vivre ma vie, m'achète des hamburgers au McDo, allez. Ça c'est cool, et fait l'imbécile avec moi comme un grand gosse. Ouais. » Donc,
à mon avis, les hamburgers, il a pas dû en acheter beaucoup parce qu'il surveillait en même temps le poil.
Philippe Lucas, il doit en faire du tire-mondo, hein. Ça, je peux le garantir.
Mais il sait être aussi le confident, l'ami. C'est pas juste le gueulard ou le père fouettard.
Bah,
ça,
je pense
vrai.
Que t'en as besoin quand t'as 14 ans et que t'es loin de tes parents. J'espère qu'elle a pu, qu'il y a peu à y avoir une relation chaleureuse entre eux. En tout cas, la méthode Philippe Lucas, quoi qu'on en pense, elle fonctionne.
Elle fonctionne de ouf.
Ouais, elle fonctionne puisque donc les premiers vrais championnats de France avec Philippe Lucas, où il est déjà entraîneur depuis un an et demi, c'est les championnats de France à Saint-Étienne en 2003, et là elle gagne 5 médailles d'or. Déjà,
c'est
ça
beaucoup.
Te place un peu la fille sur le podium. 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, 50 mètres et 100 mètres d'eau, 4 records de France, qualification pour les championnats du monde. Bon. C'est pas mal.
Et ce qui est ouf,
nage libre, d'eau, ouais. plein de.
Mais ce qui est ouf, c'est qu'elle est vachement complète en fait. Ouais. Ça, moi, je le savais pas. Enfin, quand j'ai vu préparer l'émission, c'est quand même incroyable.
Alors souvent, ce qui se passe, c'est les très grands champions, ils sont super complets à des niveaux nationaux, ce qui est déjà ouais. énorme, et on leur demande de choisir 2, 3, 4 disciplines reines. Mais c'est souvent le cas. Là, t'as raison, elle jongle quand même entre du 400 mètres nage libre jusqu'aux 50 mètres d'eau en passant par le 1500 libre. C'est énorme.
Ouais, après, elle finit par le curling, tu vois.
Elle voulait vraiment faire que le dos, et Philippe Lucas, ouais. il lui dit non, on arrête les conneries, maintenant tu vas me faire de la nage libre parce que t'as les capacités. Mais à la base, elle voulait vraiment faire que le dos.
Sachant qu'elle avait la gestion du stand merguez en plus, c'était lourd quoi.
Bien sûr, et puis qu'elle vérifie les licences de chaque nageuse.
Anecdote, Laure Manaudou a dit qu'elle pourrait peut-être revenir à la compétition un jour si aux Jeux Olympiques, le 50 mètres d'eau redevenait une discipline. Apparemment, il n'y a pas de 50 mètres d'eau aux Jeux Olympiques. Ah oui, et que vrai. Ça pourrait la faire réfléchir, même si ses enfants passeraient toujours d'abord. Donc, il faudrait une bonne organisation. Ah ouais. Donc voilà.
Elle est chaude.
Et il va y avoir bientôt une première médaille internationale.
Et oui, parce
fin 2003.
On vous a dit Saint-Etienne, championnat de France, ça la qualifie pour les championnats du monde à Barcelone. Et là, championnat du monde un peu décevant, mais on oublie quand même qu'elle a 16 ans, c'est pas mal. Et ensuite, championnat d'Europe. Et là, elle prend une première médaille de bronze en petit bassin.
Donc 25 mètres,
25
si
mètres.
J'ai bien compris.
Elle est sur la bonne pente pour aller vers les sommets.
Exactement. Et 2004, 4 titres de championne de France à Dunkerque. Et première médaille d'or internationale au championnat d'Europe à Madrid. 400 mètres nage libre, 100 mètres d'eau. Et relais 4 fois 100, 4 nages. Ouais, pardon, j'ai eu du mal.
Oui,
c'est pas mal. Non, on est sur une montée en puissance, mais on se dit peut-être que les JO arrivent un peu trop tôt.
Oui, est-elle vraiment prête pour exploser? Eh bien, mystère, on vous le dira après la pause musicale.
The That's a pretty big trunk on my Lincoln Town car, ain't it? Big enough to take these broken hearts and put them in it. Now I'm driving round on the boulevard, trunk bleeding. And every time the cops pull me over, they don't ever see them, they never see them. And I got this black suit on, roaming around like I'm ready for a funeral. 5 more miles till the road runs out. I'm about to drive in the ocean. I'ma try to swim from something bigger than me. Kick off my shoes and swim good. Got some pretty good beats on this 808 CD, yeah. Memory seats, I'm sitting on stage, yeah. I would've put tents on my windows, but what's the difference? If I feel like a ghost, no sweat. Ever since I lost my baby, I've had this black suit on. Rolling around like I'm ready for a funeral. One more mile till the road runs out. I'm about to drive in the ocean. I'ma try to swim from something bigger.
Est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a écouté?
Bien sûr, c'était Franck Océan, Swim Good. Franck Océan qui, d'après ce que j'ai compris, du coup, ferait plutôt de la nage, du 10 km nage libre.
Tout à fait, tu as bien écouté le 60
secondes chrono.
Exactement. Donc, nous sommes en 2004. Les JO arrivent, hein. Les JO sont en ligne de mire. Comment est perçue Laure Manaudou? Parce qu'elle a quand même eu quelques médailles. Est-ce qu'on se dit que c'est une grande chance française? Est-ce que, voilà, enfin, c'est quoi les bails?
On se dit que son potentiel est immense, qu'elle a une trajectoire très linéaire sur les 2-3 dernières années, qu'elle a glané ses premières médailles internationales, voire ses premiers titres, mais que 2004 arrive peut-être un tout petit peu tôt. C'est une bonne championne, de là à aller chercher l'or olympique, c'est peut-être un peu trop court. Donc, bonne favorite, mais pas la favorite.
D'accord. Et elle se sent comment? Enfin, vous lui avez demandé?
Elle...
Oui, moi je l'avais vue juste avant. Elle avait fait attention à sa nourriture. Ouais. Elle s'était étirée, elle avait une petite douleur dans le pouce droit.
Toujours la même?
Oui, tu sais, toujours la même. Ça, elle vous embrasse d'ailleurs.
Non, mais elle a un mental de championne.
Et puis, elle dira aussi qu'elle pense que ça l'a, finalement, d'être très jeune, c'était plutôt pour le mental du plus que du moins. Parce qu'elle se dit, on se pose moins de questions, on se laisse plus aller aux choses. Et enfin, voilà, elle disait, à 17 ans, on se triture moins le cerveau qu'à 25, à 25 ou plus tard. Et elle n'a pas tort de ne pas trop se triturer le cerveau parce que, tout simplement, elle va rentrer dans la légende le 15 août 2004. Et avant de vous raconter cette course de légende, je vous propose de l'écouter tout simplement.
Allez Laure, allez, elle ne s'est pas entraînée pendant des heures et des heures depuis des mois et des mois pour perdre maintenant. Elle a quitté sa famille à 14 ans pour aller à Melun et elle est à 50 mètres d'un titre olympique. Laure Manonou qui n'a jamais été aussi près de la Marseillaise, jamais aussi près de Jean Boiteux, jamais aussi près de rentrer dans le panthéon du sport français. Oui, elle a réussi un beau virage et pour l'instant elle a gardé l'écart avec Jen Rexach, Potek et je pense est déjà battu. Il faut survivre l'américaine, mais pour l'instant maintenant c'est prêt, on est proche du. C'est fait alors, il faut tenir, il reste 15 mètres, 15 mètres et Laure Manonou qui s'en va chercher le plus beau des titres, le titre olympique, Laure Manonou, la jeune fille d'Amberieu, 17 ans et demi, qui remporte le titre olympique 52 ans après Jean Boiteux, nouveau record de France, une performance exceptionnelle, Laure Manonou, championne olympique, et regardez cette sérénité, regardez cette jeune fille, il y a une princesse qui vient de naître dans la piscine d'Athènes. Il y a une nouvelle jeune fille qui va définitivement inscrire son nom dans le panthéon du sport français. Manonou, prénom Laure, un prénom prédestiné. Et à l'arrivée, le titre olympique ici à Athènes, dans le plus beau des bassins.
Alors, racontez-moi, comment on en arrive à là ?
Déjà, on ne le dira jamais assez, mais Alexandre Boyon qui commande du sport, c'est génial. Enfin, alors moi, c'est génial.
J'ai vu une anecdote comme quoi Philippe Lucas s'amusait à uriner sur les lunettes d'Alexandre Boyon pendant ses pauses.
Voilà. Donc peut-être qu'Alexandre Boyon n'aime pas trop Philippe Lucas, ou inversement. Comment on en arrive là ? Eh ben, on est sur ce 400 mètres olympique et
on met son maillot, son bonnet.
On met son maillot, son bonnet, on fait ses séries, ses demi-finales.
On laisse la candidate concurrente. On laisse à Sarah le soin de dire le nom de la candidate concurrente polonaise.
Et oui, comment s'appelle-t-elle, Sarah ? C'est une polonaise. Son prénom, c'est Olia. Mais c'est quoi son nom de famille ? Olia comment ?
C'est Jedrzejczak.
Olia Jedrzejczak, exactement. Ce qui est fou dans cette course, c'est que elle part vite, elle continue vite et elle finit vite, Laure Manonou.
Non mais oui, c'est genre c'est la confiance quoi.
On l'a pas mis dans l'extrait, c'était un peu trop long, mais au 100 mètres, elle est déjà en tête. Elle est en tête sur les bases du record du monde, qui est un record du monde qui date d'une quinzaine d'années à l'époque, 1988. Une fille qui s'appelle Janet Evans, qui est vraiment une championne dingue de natation. Ensuite, on voit même à l'œil nu, quand on n'y connaît pas grand-chose à la natation, qu'elle a une nage qui est très cadencée, qui est beaucoup plus forte, moins étirée que la polonaise. C'est plus beau à voir et on se dit qu'en fait, elle a un réservoir, un moteur de dingue.
Et puis, c'est surtout que on en a déjà parlé quand on parlait d'athlétisme, etc., sur le fait de ménager un peu son effort. Quand tu commences à aller sur des distances comme le 400 mètres, tu peux hésiter à partir très fort parce que tu peux te dire que tu vas te griller très vite. Et donc, il y a quelque chose, il faut vraiment avoir confiance en soi et se sentir très bien pour partir à fond et se dire « je vais tenir jusqu'au bout » et avoir le mental de tenir jusqu'au bout. Et elle va le faire, puisque au 150 mètres, elle est toujours devant. Mais on se dit quand même, il y a un moment, elle va fatiguer quand même.
Ouais, surtout qu'elle a disputé plusieurs courses dans la journée parce qu'elle est alignée sur d'autres disciplines. Ouais, donc, elle a fait des séries et des demi-finales.
Plus le stand de merguez.
Plus on a parlé.
Les licences qu'elle devait avoir.
Plus les joints de la douche, des vestiaires qu'elle devait refaire.
Et de la maison de Philippe, qui n'est pas terminée.
Il faut quand même le dire. La moto, il faut réparer la moto aussi.
et au final, on a à la fois cet exploit dingue parce qu'elle est la première championne olympique depuis Jean Boiteux. Et Jean Boiteux, il en parle, Alexandre Boyon. Joli nom pour faire la natation, je trouve. Ce qui était 1952, ouais. Et la première championne olympique femme tout court.
C'est vrai, tout court.
Elle le fait dans un temps qui est dingue, qui est le troisième meilleur temps de tous les temps sur 400 mètres. C'est pas mal quand même.
4 minutes 5 et 34 centièmes. Donc maintenant, on peut compter. Ça, c'est pour faire 400 mètres, donc pour faire 18 km. Attendez, je fais...
ça va vite. Thomas nous disait qu'il ne savait pas comment le mettre dans une journée. Elle y arrive.
Voilà. 4 minutes 5, c'est le temps que met Thomas pour mettre les deux pieds dans l'eau.
Parce que je suis légèrement frileux.
Oui,
donc,
il faut se mouiller la nuque.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que, en fait, moi, en préparant l'épisode, je me suis rendu compte de ce que tu disais au début, Thibaut, c'est qu'en fait, les Français n'étaient pas bons en natation. Enfin, en tout cas, c'était pas des champions, des grands champions de natation. Alors qu'en fait, moi, j'ai l'impression que, avant de préparer cet épisode, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'on était, mais la natation, c'est trop notre truc. Enfin, on a eu ensuite Camille Lacour, bah, Florent Manodou, Camille Muffa. Enfin, on a eu tellement de champions, c'est fou.
On a des mecs qui ont battu le 4x100 américain à la natation, ce qui est le truc qui t'arrive jamais. Et ça, on
c'était
l'a vu plusieurs fois au JO, championnat
Agnel,
du monde.
Enfin, c'est que des femmes et des hommes absolument, absolument incroyables, quoi.
Et notre Laure Manodou, est-ce qu'elle va s'arrêter là, au JO?
Et non.
Elle s'arrête pas là, puisque le lendemain, elle prend le bronze sur le 100 mètres d'eau, l'argent sur le 800 mètres nage libre. Et du coup, bah, ça fait or, argent et bronze au JO à 17 ans. C'est pas mal.
Ouais, c'est plutôt pas mal. On est d'accord. C'est des bons JO.
Ouais, c'est des très bons JO. Et
bon pari, Philippe Lucas. En 3
Bien
ans,
joué.
En 3 ans, on peut dire qu'il a tenu le pari qu'il avait donné à ses parents.
Oui.
Et puis au-delà de ça, juste que ça a bien fonctionné, l'entraînement a bien fonctionné.
Et moi, ce qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est qu'elle raconte que bah, quand elle va gagner la médaille d'or, elle dit je me rends pas vraiment compte de ce qui m'arrive et tout, mais je suis vraiment trop contente parce que je me dis c'est fou, je vais me faire interviewer par Nelson Montfort.
Non, moi, je pense qu'elle est vraiment très contente parce que
il va y avoir
coup,
le petit pips.
Elle va avoir le pips FR3.
C'est vrai. Ça c'est beau. Ça c'est encore mieux qu'un record.
Alors, et on pourrait se dire c'est peut-être juste une petite étincelle comme ça.
Oui,
et ben
une
non.
Trace, quoi,
une trace. Bah non. Elle va dominer. Elle va dominer la natation derrière.
Elle va montrer c'est qui domine.
Et exactement. Une domination sans limite dès 2005.
Ouais, sur l'Olympiade qui suit, elle continue sa montée en puissance. En 2005, elle se prend ses médailles d'or classiques au championnat de France. Elle en prend 5, c'est le tarif. Évidemment, ça marche bien. Et ensuite, on a les mondiaux à Montréal. Le 400 mètres, bam, et ben là encore, championne du monde. Donc championne du monde, championne olympique, championne de France, ça commence à être pas mal. Champion de France en petit bassin, pour elle, c'est du tranquille ça. 6 titres, 8 records. Championnat d'Europe en petit bassin, 3 titres, 2 records du monde. Et là, on en arrive à 2006, qui est peut-être sa meilleure année, 2006-2007.
La meilleure année de Raymond Domenech aussi. Au que l'on salue.
C'est vrai.
On l'embrasse même.
Ouais. Oui. On l'embrasse, on l'aime. Puisqu'en 2006, elle a 9 titres de championne de France. Et surtout, elle bat enfin ce record du monde du 400 mètres nage libre qui lui était destiné. C'était vraiment un peu un record mythique de la natation.
Et ce que je vous propose, c'est d'écouter le moment où elle bat, parce qu'on se rend compte avec les commentaires... Qu'elle fait quelque chose, encore une fois, d'exceptionnel.
C'est la folie, quoi. C'est la folie dans la piscine, c'est merveilleux. Vraiment, on vit un grand moment. Allez, Laurette, on te pousse, on est tous derrière toi. C'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Oh, elle finit bien, regarde Philippe.
On l'encourage jusqu'au bout.
Allez, Laurette, allez, il faut virer en 32, là. 32, Laurette. Allez. Ah, ça va être chaud.
3-0-5, ça va être dur jusqu'au bout.
Allez Laurette, allez. En tout cas, elle a le record d'Europe dans les jambes. Elle a le record d'Europe dans les jambes. Elle s'attendra peut-être au record du monde un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est merveilleux, ça, voir.
Il n'est plus qu'à caler.
Voir une course comme ça avec les gens debout et tout.
Les yeux braqués sur le chrono. 4-0-3-85.
Ah, ça va être chaud.
Ça va être dur.
Allez Laurette, allez jusqu'au bout.
Ça va être très très juste.
Allez, c'est bon, tu peux la faire. Allez, oui. Record du monde ici, c'est un record du monde mythique. Janet Evans s'est effacée, on était gamins devant sa télé quand on voyait ça.
Janet Evans, 4-0-3-85. Laure Manodou, 4-0-3-0-3.
Bon, on nous a pas mis les plus grands excités sur la séquence pour commenter. On nous a mis la seconde division là.
Oh, il est déçu.
Ouais, je suis un peu déçu. Moi, je voulais du Alexandre Boyon à toutes les secondes.
En fait, il devait, mais il voyait rien. Quelqu'un lui avait pissé sur ses lunettes et il savait pas trop l'ordre.
Et Philippe Lucas qui se marrait dans les tribunes.
Non seulement donc pendant ces championnats de France, elle bat le record du monde. Mais en fait, derrière, qu'est-ce qu'elle a à faire ?
Elle le bat une autre fois, c'est pas mal de battre un record vieux de plus de 15 ans. Mais si on peut encore lui coller une seconde de mieux, 4 minutes, 2 secondes et 13 centièmes, on le fait aussi. Disons que c'est les championnats d'Europe de Budapest. C'est vraiment là le trésor. C'est 7 médailles d'or dans ces championnats. C'est un record absolu. On annonce des chiffres un peu dans tous les sens, mais il faut quand même se dire gagner 7 fois une médaille d'or dans les championnats d'Europe, c'est beaucoup.
Non, mais ça me paraît impossible. Je crois que Laure Manodou, c'est quelque chose comme 127 médailles, dont 86 en or. Enfin, globalement, elle gagnait tout le temps. Enfin, c'est incroyable. Enfin, moi, à côté de ça, j'ai gagné une fois au Club Med, j'ai eu une médaille de bronze en tir à l'arc, je crois.
Moi, en colo, j'ai gagné la médaille du plus beau château de sable.
Mais ah, c'est beau. Et toi, Thomas?
J'ai... Quand je jouais au foot, t'es petit, on a gagné le prix du fair play parce qu'on prenait 18-0 et qu'on est... on faisait la chenille à la fin parce qu'on était quand même contents avec mes copains. Alors, il a vraiment eu la coupe mignon. Du fair play. Maman était très fière.
Maintenant, on peut le dire à Thomas, c'était une coupe créée par sa maman. Et Laure Manaudou est tellement forte. Eh ben que non seulement elle bat des records, elle gagne des médailles, mais elle en vient même à gagner des titres et à conserver des titres qu'elle avait. C'est l'année 2007 où elle redevient championne du monde qu'elle était déjà. C'est fou.
Et à ce moment-là, en 2007, elle déménage, ils sont plus à Melun. Oui. Ça va être peut-être important pour la suite. Ouais. Ils arrivent à Canet-en-Roussillon, dans le club que vient de commencer à entraîner Philippe Lucas.
Et oui, et donc 2007, on suit sa lancée.
Ouais, c'est encore les championnats du monde, parce que les championnats du monde en natation, c'est tous les ans. Elle remporte l'or sur 400 mètres nage libre. Vous avez compris que le 400 mètres nage libre, c'était sa discipline phare. Mais elle le remporte aussi sur 200 mètres nage libre, avec un record du monde. Deux médailles d'argent, 800 mètres et 100 mètres d'eau, et le bronze en relais. Elle est nommée meilleure nageuse de ce championnat avec Michael Phelps.
C'est donc, voilà, plutôt ça, la classe.
Bonne référence.
C'est plutôt la classe. Ça, donc là, on peut dire qu'elle est au sommet. Et pourtant, le drame. Le 6 mai 2007, que se passe-t-il ? Thomas, une séparation.
Le 6 mai 2007, elle est au sommet de sa carrière, les JO approchent, on va se préparer, mais elle décide de dire à Philippe Lucas, nous deux c'est fini.
Bye bye.
Elle s'en va. Ah. Elle décide de quitter Philippe Lucas, pourquoi ? Parce qu'en fait elle tombe amoureuse d'un Italien qui habite en Italie.
Raymond Domenech.
Non, pas celui-ci. Il s'appelle Luca Marin. Alors peut-être qu'on dit Luca Marine, je ne sais pas. Je ne suis pas italien d'origine et je
personne ne t'en
la
voudra de mal prononcer des noms dans ce podcast.
Donc, nous l'appellerons Luca Marine pour faire un peu style. Et ce Luca Marine, dont elle est amoureuse, eh bien, le problème, c'est quand on a une relation à distance.
Parfois, c'est compliqué.
C'est casse-pied. Ouais. Et c'est les horaires de la natation, quand tu dois nager 18 km par jour, c'est un peu compliqué le Skype et puis ça ne suffit pas pour se faire des bisous. Donc, elle. Oui. Décide de rejoindre son amoureux.
Parce que entre dormir avec Luca Marine et Philippe Lucas,
voilà, choisit son amoureux. Alors, est-ce que c'est à cause de ça ? Peut-être qu'il y avait des problèmes avec Lucas, elle qui ne voulait plus travailler. Elle est dans une période un peu chelou, parce qu'elle sortait depuis quelque temps déjà avec Luca Marine, alors qu'elle était déjà avec Philippe Lucas. Mais Luca Marine, une espèce de nageur qui a gagné une fois un championnat d'Europe.
Bon, c'est déjà pas mal, genre, une espèce de truc, une fois, comme ça.
Ouais, mais enfin, toi, je veux dire, attends, ça va quoi? L'élite appelle l'élite, mince.
Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'elle-même dit qu'elle a du mal à supporter les entraînements et qu'elle a envie de changement aussi, d'un nouvel élan dans sa carrière.
Elle a rencontré cette espèce de guimauve là, charisme. Attends, mais vous l'avez vu, il a un charisme d'huître.
Il faut voir aussi qu'en 2007, donc elle a 21 ans. À 21 ans, je ne sais pas si on se souvient tous de nos premières amourettes, mais c'est vrai qu'à 21 ans, eh ben, on est jeune et fou, c'est le premier amour. Et puis. Honnêtement, t'as gagné je sais plus combien de médailles, 80 et quelques. Bon,
t'as un vieux gars avec des colliers qui te dit de te refoutre dans ta piscine pour 100 bornes et t'as un bel italien qui dit de venir. Bon, c'est vrai que.
Ah, parce qu'il est beau, hein, Luca Marine, ça, c'est.
Ah, ça, il est beau.
Bah, ils ont l'avantage d'être quand même assez bien bâtis, les nageurs, faut dire ce qu'il y a. Quoi.
Elle est connue pour ça, mais elle le reconnaît qu'elle a toujours été très extrême dans ses relations amoureuses, qu'elle a toujours. A suivi un peu son intuition, ce qu'elle avait envie de faire, qu'elle a jamais aimé se sentir obligée. Philippe Lucas, lui, déclare tout simplement, Laure part parce qu'elle a envie de moins travailler, elle fuit le travail.
C'est sûrement un peu vrai aussi.
C'est
un mix. Peut-être que si on lui avait proposé que Luca Marine vienne s'entraîner avec elle aurait peut-être pas voulu non plus, parce qu'elle a besoin d'une rupture, d'un changement, d'un vrai changement.
Toujours est-il que 3 jours après, elle perd pas de temps, hein, le mercato de la nage est ouvert, elle fait une conférence de presse pour dire qu'elle rejoint donc son copain Luca et son charisme d'étagère Billy à la presse Nuoto, qui est un club de natation en Italie, sauf qu'en fait, il y a tout un buzz, un bad buzz. On dit dans un premier temps qu'elle continue à appartenir, à être sous licence à Canet, en Roussillon, mais qu'elle a le droit d'aller s'entraîner en Italie. Il y a tout un.
Il y a un moment de flottement, et puis même l'Italie, on va lui dire que pendant quelques mois, elle a le droit de s'y entraîner, et puis ensuite, on va la rapatrier en France. Enfin, c'est vraiment une période qui commence à être un peu compliquée.
En plus de ça, elle va se blesser au pied, et je crois que c'est en fait en Italie où ses compagnies réunions d'entraînement vont la pousser, mais pour rigoler, etc. Et en fait, elle se blesse au pied. Et donc,
au quatrième métatarse, c'est très chiant.
Ça crée une ambiance.
Ouais, c'est des premiers signaux pas terribles.
Et pourtant, enfin, on croit qu'elle va se planter et les championnats de France arrivent. Et Thomas, je ne sais pas si tu sais ce qui se passe pendant ces championnats de France.
Eh bien, elle est attendue au tournant et elle gagne 5 titres.
Ce qui est pas
donc,
mal.
Parce qu'on passe de 85 à 90. Je ne sais pas combien on s'arrête, mais ça reste sérieux.
Les gens attendent toujours parce qu'il n'y a pas de tournant dans la piscine. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Non, à tournant, Arnaud Tournant, il fait plutôt du vélo.
Et du vélo, exactement, du cyclisme sur piste. On a perdu Sarah. Non, mais en fait, elle a une telle marge sur les autres que, évidemment, être 5 fois championne de France, qui est un record de dingue, pour elle, ce n'est pas grand-chose. C'est pas grand chose, mais
malgré
la
tout
de la défaite
est plantée parce que bon, malgré tout, les JO approchent et on sent que son environnement est devenu de plus en plus instable.
Oui.
Et en août 2007, elle est licenciée de son club italien. Fou. Va lui reprocher son attitude et son refus de faire les relais, je crois.
Ouais, elle a un comportement qui est pas top. Elle est pas complètement dans le team spirit.
C'est très.
Elle craque un peu aussi, je pense. Ouais.
C'est très intéressant de voir un peu chercher un peu dans cette période-là. Alors le titre de l'équipe, le 8 août, parce qu'elle est virée le 6 août. Le 8 août, c'est SOS Manodou parce qu'il faut l'aider parce qu'elle va les JO arrivent. Il faut absolument qu'elle ait une médaille, etc. Donc il faut absolument trouver, c'est dans un an, un club. Les médias français se lâche un peu sur les Italiens. Ouais, non, mais c'est vrai, en disant, mais de toute façon, ce club-là, la presse machin, c'est juste, ils sont juste là pour l'image des champions et pour faire du fric. Donc, de toute façon, si elle s'est fait virer, c'est peut-être pas parce qu'elle n'est pas professionnelle, c'est juste que c'est à cause de l'argent. Bon. Oui.
Et puis, vous le savez, moi, les Italiens.
Non, mais. Tous les aimes pas.
Vous le savez aussi.
Paolo Penso, là, son entraîneur, son discours, c'est bah, moi, j'entraîne Manodou. Ouais, ok, mais c'est un boulot comme un autre. Ça change quand même du discours de Philippe. Plus cas. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à gratter là-dedans dans ce licenciement.
Et donc, elle retourne s'entraîner avec son frère, en fait, Nicolas, dont on a parlé au début.
Exactement, son grand frère qui était entraîneur de natation. Elle revient près du domicile familial à Ambérieu-en-Bugey. Donc, c'est le retour aux sources. On se dit que finalement, ça va peut-être un peu la stabiliser. Elle termine quand même nageuse de l'année en 2007. Donc, elle est encore au sommet. Mais on sent bien que depuis quelques mois, elle vit dans un environnement pas du tout stabilisé. Or, on sait que pour gagner et gagner les Jeux Olympiques une deuxième fois, il vaut mieux avoir des repères.
Ouais. Et d'ailleurs, il va se passer quelque chose qui va encore la déstabiliser à cette époque-là. C'est là où vous devez vous souvenir, il va y avoir des photos d'elle nues qui vont être dévoilées sur le web. Et donc, elle doit gérer ça. Elle a 19 ans. Enfin, c'est absolument... horrible. On ne sait pas trop qui les a sortis. Alors, à l'époque, elle n'est plus avec Lucas Marine, elle est avec un autre...
En tout cas, elle dit que ce n'est pas Lucas Marine. Elle dit que c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Pierre-Henri. Mais ce fameux Pierre-Henri, je crois, avait porté en diffamation parce qu'il dit que ce n'était pas lui. Donc, bref, moi, mon frère s'appelle Pierre-Henri et je peux vous dire que ce n'est pas lui. je ne sais pas si c'est très intéressant.
Il y a aussi cette histoire où elle le racontera dans Entre les lignes, son livre, où aussi elle grille Luca Marine. C'est pour ça que je ne l'aime pas trop, moi.
Qu'il
la trompe avec Federica Pellegrini, qui en plus, se trouvera être sa principale rivale, qui en plus Federica Pellegrini va exploser tous les records, notamment ceux de Manodou derrière.
Elle va être entraînée par Philippe.
Elle va être entraînée par Philippe. Donc voilà,
elle se fera adopter aussi par les parents de Laure.
Elle deviendra officiellement la sœur en fait, de Laure Manodou. Voilà, donc il y a tout un truc où dans la tête il y a des coups au moral, coup sur coup, quoi.
Oui, et puis cette histoire très injuste pour Laure Manodou, je trouve que justement à l'époque, on en parlait un peu vraiment comme une injustice. Il y a des sportifs qui, parfois, il leur arrive des tuiles, et on va estimer oui, c'est leur faute, etc. Là, je trouve qu'il y a pas mal de compassion. Alors, il y a toujours des débiles qui vont venir t'expliquer
qu'on n'a pas à faire ça. Parce qu'il faut être un sacré connard pour poster des photos comme ça.
Mais là, il y a une forme de compassion. Il y en a toujours, mais il y a quand même dans la pas trop de jugement. Et je trouve que même aujourd'hui, dans l'esprit des Français, on retient pas de Manodou que on retient la grande championne et malheureusement pas cette histoire dont elle doit avoir envie de se débarrasser parce que c'est injuste, quoi. On n'a pas à faire ça.
C'était notre championne, même tout le monde avait envie de l'aimer, de l'adorer. On n'en avait pas eu des championnes comme ça en natation, donc on voulait la protéger aussi. Donc on trouvait que ce qui lui arrivait était injuste, et en l'occurrence c'était vraiment injuste.
Non, et puis c'est cette histoire-là, en fait, ce qui est vraiment pas juste, c'est que là, on a affaire à un personnage public, donc champion, et puis, bah voilà, ça fait toute une histoire. Waouh, elle a envoyé des photos d'elle nue. Alors, je mettrai personne mal à l'aise, mais c'est pas non plus une pratique qui est si extraordinaire et rare que ça, quoi. Enfin voilà.
Non, tu me demandes des choses.
C'est des choses qui peuvent arriver. Je veux mettre personne mal à l'aise. On ne demandera pas qui le fait et qui ne le fait pas.
Mais n'hésitez pas à aller sur thomasnu.net.
Voilà. Non, mais sans blague.
Et vous n'avez pas le WhatsApp de PO, mais il y a des centaines de photos noires.
C'est des choses qui sont pas justes. Ça reste dans l'ordre de l'intimité, dans la vie intime d'un couple. Chacun, on fait bien ce qu'on veut. Et c'est des choses qui n'ont pas à être diffusées. Et si on savait la moitié des choses que faisaient nos partenaires qui étaient en face de la table, à gauche ou à droite, peut-être qu'on serait un petit peu choqués. Et c'est le principe de l'intimité.
Alors moi, j'ai quand même un bracelet électronique, ce qui vous donne quelques indications. Mais là, on est du coup.
Moi, c'est des choses qui me font vraiment mal au cœur parce que je trouve que c'est pas juste. Enfin, c'est une relation de couple ou même intime, c'est de la confiance. Et là, c'est
et retrouver la radio libre avec Thomas à 22h50.
On parlait de.
Non, bien sûr, mais t'as raison.
On fait pas des choses
comme
ça.
T'as évidemment raison.
Et résultat,
elle arrive aux Jeux Olympiques. Bon, on vous a fait le portrait de la dernière année, c'est pas terrible. Elle arrive aux Jeux Olympiques, elle se qualifie quand même pour la finale du 400 mètres. Donc, malgré tout ça, elle est dans les 8 meilleures nageuses du monde de sa discipline. C'est énorme. Mais elle craque complètement dans cette finale olympique. Et peut-être on peut écouter un extrait.
Ouais, cet échec.
Alors, il y a eu des déceptions aussi aujourd'hui pour nos athlètes. Une grosse déception même, à la hauteur des espoirs, à la hauteur de son incroyable carrière. Je veux parler de Laure Manaudou. Elle a quitté le bassin ce matin sans savoir si ou quand elle y retournerait. Sur place, Julien Benedetto, Jean-Marc Nouknouk.
Les JO sont terminés pour Laure Manaudou, sans gloire et sans médaille. Ce matin, en demi-finale du 200 mètres d'eau, épreuve dont elle est championne d'Europe en titre, la Française lutte de longueur avant de couper son effort. Huitième et dernière, ici à droite de l'écran, elle confirme à la sortie du bassin qu'elle va mettre sa carrière entre parenthèses après les JO.
J'ai besoin de temps un petit peu pour reprendre plaisir à nager. J'espère aussi que je ne mettrai pas autant de temps que je pense à reprendre du plaisir.
Quelques minutes après son troisième échec en trois épreuves, Laure Manaudou est réconfortée par son entraîneur. Fataliste, Lionel Orter reconnaît que la championne est soulagée de quitter quelque temps les bassins.
Je sens qu'elle est contente que ce soit terminé, et pas seulement contente de terminer les courses, les Jeux Olympiques, je crois qu'elle est contente que tout soit terminé. Donc je crois qu'il faudra le respecter.
Combien de temps restera-t-elle hors de l'eau? Philippe Lucas, l'entraîneur qui l'a mené au titre olympique il y a 4 ans, estime qu'au-delà de 6 mois, son retour au plus haut niveau sera compliqué, mais il croit toujours en elle.
Elle s'est mise dans la merde, d'accord? Parce que ça, il faut quand même le dire. Hein. Et aujourd'hui, il faut qu'elle prenne du temps. Elle sait ce qu'il faut faire pour revenir, elle sait. Donc voilà, maintenant c'est elle de prendre la décision. Mais je suis sûr qu'elle pourra revenir à une très très, très grande masse.
Donc ces JO, c'est un vrai échec. Hein. Elle finit dernière sur le 400 mètres nage libre en finale. Elle va finir septième sur le 100 mètres d'eau. Elle va pas faire la finale du 50 mètres d'eau.
Elle vend beaucoup moins de merguez que d'habitude parce que la saison n'est pas bonne. Hein,
elle oublie les sauces.
Enfin, elle oublie
ce qu'elle faisait pas avant. Ouais. Non, mais pour elle, c'est des résultats très décevants. Bon, faut le dire, on peut pas être champion olympique quand on fait la dernière année qu'elle a eue. C'est une année trop perturbée. Personne n'est capable, même la meilleure nageuse au meilleur potentiel possible ne peut pas. C'est triste quand même parce qu'on voit qu'elle est un peu à bout, qu'elle se cherche, qu'elle ne sait pas si elle doit arrêter, continuer. Donc il va y avoir cette période de flottement derrière.
Oui, elle dit qu'elle veut faire un break. Elle va renager en 2009 au championnat de France et au championnat d'Europe pour finalement redire qu'elle va vraiment prendre sa retraite à 23 ans. Elle dit qu'elle a un état de saturation qui la prive complètement du plaisir de nager. En fait, elle est tout simplement épuisée mentalement, mais elle n'a pas complètement dit son dernier mot, puisqu'elle va tenter un petit comeback quand même après avoir donné naissance à son premier enfant en 2010.
C'est une période un peu en pointillé, 2008, 2009, 2010, j'arrête, je reviens.
Elle fait quand même en 2009 péter quelques records encore de France, elle fait encore des petites choses malgré tout alors qu'elle est
bien sûr,
c'est là où on voit que le potentiel est fabuleux, le potentiel qu'elle a est fabuleux, mais quand elle revient vraiment après avoir eu un enfant en 2010, elle dit voilà, je reviens à la compétition. Elle reprend des compétitions en 2011 et en 2011 elle claque son record personnel sur 50 mètres nage libre. Alors 50 mètres nage libre, c'est pas du tout sa spécialité, mais justement elle fait des distances un peu plus courtes. et elle va regagner les titres de championne de France. Elle se requalifie pour des Jeux Olympiques, ce qui paraissait fou 6 mois ou 1 an auparavant. Hein. Elle arrive à être la meilleure de son pays pour représenter la France au JO, ce qui est déjà énorme.
Londres 2012, mais ça va pas très bien se passer, Thomas.
Non, elle va être éliminée des séries et puis elle fait une pause et elle reprend l'entraînement juste un mois avant, donc c'est pas extraordinaire comme préparation pour des Jeux Olympiques. Et les
elle est éliminée des séries aux JO et elle fait une pause avant les championnats d'Europe.
Avant les championnats d'Europe, donc c'est toujours pas génial.
C'est pas génial, mais
en 2012 il y a le pardon, mais en 2012 il y a quand même cette fabuleuse image parce que c'est Florent Manaudou qui gagne, qui devient champion. Et malgré le fait qu'elle soit complètement dans le saut sportivement, tu la vois vibrer de ouf et tu la vois féliciter son frère.
Elle est magnifique,
cette image.
Et pour
la petite histoire d'ailleurs, les trois, les deux frères et la sœur ont le même tatouage pour dire qu'ils ont le même lien, etc.
Non, il y a une interview aussi de Philippe Lucas qui dit si elle était restée avec moi en 2012, je sais plus qui gagne, mais elle dit avec 42 fièvres, elle aurait éclaté sur quoi. Tout dans la poésie, mais voilà.
Mais oui, globalement, vous avez compris que c'était quelqu'un qui était dans la nuance, Philippe Lucas.
Toujours.
et on termine après les JO. Ouais. Elle refait une pause, comme l'a dit Thomas. Elle revient parce qu'il y a des championnats d'Europe en petit bassin à Chartres, et là j'ai envie qu'on écoute cet extrait parce qu'on en reparlera, c'est sa dernière grande course et on va pas l'écouter cet extrait. Pourquoi on va pas l'écouter? Parce que on me l'a coupé, je veux dire. Non, mais en fait c'est championnat,
mais peut-être que tu peux nous le faire.
Alors, est-ce que tu peux nous le raconter?
Fais plusieurs voix de personnage.
C'est la compétition en mini bassin de 7 mètres. Laure Manaudou est en tête. Non, mais en fait, ces championnats d'Europe, ils sont beaux parce que elle décide de s'y aligner alors qu'on pense que ça va être un échec de plus. Ça fait 2-3 ans qu'elle gagne plus grand chose et elle va claquer quand même une médaille d'or en championnat d'Europe en petit bassin. Elle va aller sur le podium avec sa petite fille dans les bras. Donc en fait, la boucle est bouclée quand même. Elle est encore une championne extraordinaire, peut-être pas de là être championne olympique, mais elle termine sur un vrai bon succès. Il y a beaucoup de nageurs qui signeraient tout de suite pour être champion d'Europe en petit bassin après 3 ans en dents de scie.
C'est vrai que c'est bien joué. C'est bien joué de s'arrêter là-dessus.
Ah ouais,
et de s'arrêter définitivement après ça, de dire allez, c'est bon.
Mais tu vois, même là-dessus, elle est pas très claire. C'est-à-dire que elle arrête pas franchement là-dessus. Elle attend. Oui. Et puis en 2013, elle dit définitivement j'arrête.
Voilà.
C'est une histoire.
Au revoir.
Un peu compliqué.
Et donc, peut-être, elle arrête. Et pourtant, on a déjà commencé un peu à le dire, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de Laure Manaudou? Qu'est-ce qu'elle a laissé à la natation française? Tout.
Un héritage incroyable, je pense, parce que, comme tu le dis, Thibaut, si bien, elle a montré la voie à plusieurs autres nageurs qui, derrière, on a quand même récolté une sacrée moisson de médailles. Et ça, c'est vrai que c'était pas arrivé avant Jean Boiteux, 52 ans auparavant, Manaudou. Donc, il y a quand même quelque chose, même peut-être dans le travail et ce qu'elle a insufflé, qui est assez énorme.
C'est vrai, et on pensait pas qu'on allait pouvoir aligner tous ces noms, les Agnel, les Lacour, les Bernard, les Stravus, des gens que vous connaissez peut-être, des Metella, vous avez déjà entendu ces noms-là.
De manière très vulgaire, ça fait qu'avant Manaudou, tu regardes la natation, tu es là, oh non, putain, fais chier, j'aimerais voir ça. Et tu vois la natation là, tu dis, ah tiens, je connais un petit peu maintenant. Et en vrai, elle a quand même. Elle a rendu plus accessible la natation. Et effectivement, on connaît Agnel, Bousquet et
tous les autres.
Elle a même une Barbie à son effigie.
Wow. Ah,
ça, c'est
Barbie
beau.
Barbie a fait une Barbie championne de natation et ils ont utilisé.
On a cité plein de noms et tu as parlé de son frère aussi, et son frère champion extraordinaire. Il a gagné une médaille d'or. Lui aussi, il a arrêté. Il a fait un autre sport. Oui. Et bon, c'est aussi pas mal de faire un autre sport comme ça.
Mais c'est drôle parce qu'en préparant cet épisode, je me demandais pourquoi le hand. Mais c'est parce que son père
Il avait toujours dit qu'il voulait en faire, lui. Oui, pardon.
Et puis, non, mais c'est juste qu'au-delà de ce qu'elle a laissé à la natation, c'est quand même globalement la plus grande championne française de l'histoire de la natation pour l'instant.
Oui, ça c'est sûr. Alors, si la vie de Camille Muffat ne s'était pas arrêtée
très
comme
jeune.
Ça, peut-être qu'elle aurait été aussi de ce bois-là, mais sinon, c'est plutôt des hommes qui ont dominé ensuite pour la France. Peu de femmes, quelques-unes, mais pas autant qu'elle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette fin de carrière cette fin de vie sportive, c'est que peut-être qu'elle a été elle a gagné très tôt, trop tôt, mais ça en natation souvent on gagne assez tôt, pas autant qu'en gymnastique mais quand même on gagne tôt. Est-ce que avec un entraîneur un peu moins chevronné ou un peu moins fou, elle aurait gagné un peu plus tard et elle aurait duré plus longtemps? Nul ne le sait, peut-être pas, elle aurait peut-être jamais gagné. C'est toujours difficile à analyser ça.
Et ce qui a beaucoup marqué aussi, et je vous propose d'écouter un extrait, c'est le fait qu'elle dise elle-même à plusieurs reprises que tout simplement elle n'aimait pas nager, ce qui nous fait penser, enfin moi ce qui me fait penser à un autre sportif qui est Agassi, qui expliquait qu'il n'aimait pas jouer au tennis.
Domenech un jour a dit je n'aime pas entraîner, je crois, mais non.
Ça s'est vu peut-être. Je vous propose d'écouter.
Vous commencez ce livre en disant je n'ai jamais aimé nager. Pourquoi avoir fait tout ce que vous avez fait?
Parce que j'aime gagner et c'était mon moteur, c'est pour ça que j'ai nagé. Ça aurait pu être dans un autre sport, mais il s'est trouvé que j'avais des facilités dans la natation et que mon grand frère faisait le même sport que moi. Donc c'était plus pratique pour ma mère de nous amener au même sport que de faire des chemins différents. Donc c'était juste de suivre mon grand frère et de gagner à chaque fois.
À quel moment vous vous êtes dit j'aime pas nager?
Très jeune, parce que j'avais pas envie, quand je sortais de l'école, j'avais pas envie d'aller à l'entraînement. J'essayais de rester le plus longtemps possible dans le vestiaire ou accroché à l'échelle sous l'eau pour pas qu'on me voit. Donc pour moi, la piscine c'est associé au jeu et c'était ce que je faisais avec mon père tous les dimanches matin. On allait à la même piscine là où on s'entraînait, mais c'était pour faire des bombes, pour faire des courses, pour gagner quoi.
Tout simplement. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quand on l'écoute, en tout cas, parce que on a pu lui reprocher d'avoir un peu brisé sa carrière, d'avoir pas fait ce qu'il faut pour rester au top. Mais elle, ce que je trouve beau, c'est qu'elle a en tout cas pas l'air d'avoir de regrets et qu'elle est très épanouie aussi dans la vie qu'elle a choisi de mener.
Alors qu'elle dit ouvertement, si j'étais restée avec Philippe Lucas, j'aurais été championne olympique en 2 minutes. Et quand on voit les résultats, ça aurait sûrement été le cas, le potentiel qu'elle avait. Mais c'est vrai qu'elle elle regrette pas, elle analyse ça de manière assez lucide, assez froide. Mais le « j'aime pas nager » est toujours un peu glaçant quand même. Ouais. Mais pour quelqu'un qui aime pas nager, elle s'est quand même accrochée, même une fois qu'elle a arrêté. Elle a pas arrêté net, preuve qu'elle aimait vraiment gagner en tout cas. Younes, par exemple, n'aime pas les podcasts, il est plus là.
Il a été viré, le pauvre. Non, mais... D'ailleurs, maintenant, elle s'est mise au trail et à la course à pied. Et elle explique que, résultat, quand elle a été sollicitée pour le faire, etc. Mais qu'elle dit que, pour le coup, là, c'est plus pour gagner qu'elle le fait. Enfin, elle veut que ce soit du plaisir.
C'est intéressant.
Attends, j'ai vu dans une... Pardon, vas-y, Thomas. Vas-y.
C'est plus pour gagner, mais elle dit quand même en interview qu'elle a poussé sa... Donc, ils sont à deux, sa partenaire tellement loin... que la partenaire finit un petit peu sur une jambe et
mais
en fin de compte elle est
en kayak
et elle dit allez on y va etc. Parce que on a été champion 85 médailles voire plus tu te dis on y va tu vois et t'as la camarade en face qui doit être
qui est pas une grande championne
C'est Laure Manaudou, elle crie avec Philippe Lucas, je vais avoir un peu peur, donc elle y va, elle rame puis à la fin elle est à la limite du malaise vagal.
En plus elle a ses cheveux blonds peroxydés derrière, ses colliers, ses tatouages,
tu perds jamais vraiment
peut-être
tes repères.
Elle aime beaucoup
au final.
Sa famille, mais il vaut peut-être même aux petits chevaux. Je pense que ça doit pas rigoler, quoi.
Je pense quand même ça doit gagner. Ils sont ça en eux, même quand ils disent je suis passé à autre chose.
C'est marrant.
Parce
que ça me rappelle, je l'ai vu dans une émission cet été, je zappais, et je l'ai vu dans une émission avec Mike Horn, tu sais le. Qui invite des célébrités à venir faire un trek machin. Et il avait Laure Manaudou.
Ah oui.
Et visiblement, même lui était vachement impressionné par sa faculté à être ultra.
Enfin, il paraît qu'elle est extraordinaire. Enfin, qu'elle a une force.
Elle a des capacités
mentale,
naturelles hors du commun, et toute la famille et son après-carrière est pas mal non plus finalement. Elle a été l'égérie de plusieurs marques.
Elle était une Barbie.
Elle était une Barbie.
Alors moi j'ai lu des interviews encore récemment où elle disait qu'elle se cherchait encore, qu'elle savait pas vraiment ce qu'elle voulait faire de sa vie. C'est toujours drôle de dire ça quand t'as été championne.
Ouais.
Je sais pas encore ce que je veux faire de ma vie. Bon, elle a quand même déjà réalisé une bonne partie.
Moi non plus, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je voulais vous le dire.
Mais c'est une championne.
On va en parler.
On en reparlera après. C'est dans post PO. Psych PO. Et Sarah le disait, on l'aime aussi pour cette normalité là, en fait. Pour ces failles-là.
Ça reste, pour conclure, en tout cas une des personnalités préférées des Français, alors que ça fait quand même un petit bout de temps qu'elle
n'est
plus...
Comme Éric Zemmour, comme quoi.
Dans les bassins.
Oui,
eh bien, je vous propose, si vous n'avez rien à rajouter, de passer à l'anti-doping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping. Donc, il fallait faire la petite chose.
Mais c'est toi, Thomas, qui t'y est collé.
Ah.
Oups.
Ah, oups. Ah, bah, je vais inventer quelque chose, alors très très vite. Il faut savoir qu'à défaut de m'intéresser à des sportifs qui avaient fini tôt leur carrière comme Manonou, j'ai décidé de prendre le pli inverse et je voulais m'intéresser aux vétérans. Déjà parce que j'aime le mot vétéran, que ça me fait rigoler. Et aussi, tout simplement, parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller à l'inverse, tout simplement. Donc, j'ai tout fait pour faire cet anti-doping sur Zlatan.
Puisque ah, je croyais que c'était pour Younes, sur Younes.
J'ai le sweatshirt et je me suis dit que résumer son idole en 3 minutes, c'est une insulte, donc je ne peux pas faire ça.
Donc ça durera 1h30.
Voilà, ça durera 1h30, accrochez-vous. J'ai ensuite pensé à un vétéran un petit peu plus lisse, selon moi, peut-être un petit peu plus classe, Valentino Rossi. Vous voyez qui est Valentino Rossi.
Ah, moi j'adore Rossi. Valentino Alors, voilà. Rossi.
Donc c'est un pilote de MotoGP, 42 ans, il est vieux mais il est quand même fort, il prend sa retraite à la fin de l'année, c'est parfait Thomas, on est parti sur Rossi, mais en moto, au vu des difficultés actuelles de notre ami Marc Marquez, je ne veux pas de problème avec Chloé, je change mon fusil d'épaule. Voilà.
T'as donc, bien
on,
raison.
On continue.
Elle nous en Alors, aurait voulu.
Là, t'es totalement perdu, je me dis, bah, je vais parler de ma ceinture demi-orange de judo, de mes années à cirer le banc ou handball, parce que j'étais pas très fort, ou de mes prouesses footballistiques, mais mon but en lucarne, filmé mardi dernier par les caméras du Five de Créteil, suffira amplement à résumer ma courte au carrière sportive. On va revenir du coup à Manonou. Et c'est vrai que moi, toute cette histoire autour de la vie de famille, ça m'a vraiment touché. Et je trouve ça très, très joli d'abandonner tout pour suivre la personne qu'on aime. Et c'est vrai que ça me fait un petit sourire en coin, comme quand je regarde La La Land. Il y a un des films préférés, je l'admets. J'ai un petit côté cuculapraline. C'est vrai.
Ouais, ouais.
Alors là, je me suis dit, des belles histoires d'amour dans le sport, il y en a plein. On peut penser à Tiger Woods, Tony Parker, je n'irai pas jusqu'à tenter les blagues OG. Bref, je m'arrête ici.
Ce serait très marrant qu'il j'ai pensé à faire ça et il le fait jamais.
Voilà, voilà.
Bon, tout simplement, prenez un bon magazine de plage et vous retrouverez toutes les histoires d'amour du sport. Moi, je voulais me pencher en fait sur le côté non pas du sportif, mais sur l'entraîneur. En découvrant Monsieur Philippe Lucas, je me suis dit, tiens, comment on peut faire pour pousser quelqu'un aussi fort pour faire de vous un champion? Comment on peut écouter quelqu'un pour lui dire bah tiens, je vais mettre mon destin et ma vie entre tes mains, puisque enfin c'est un peu ce qui se passe quand même avec Manonou, voire même tous les gens qui sont coachés au niveau, puisque ils gèrent quand même beaucoup de choses. Et moi j'ai trouvé que ce monsieur Lucas, il avait une forte ressemblance avec un vieux monsieur. Alors avec tout le respect que je dois, il est vieux. Depuis que je le connais, il est vieux. Depuis que je l'entends, il est vieux.
C'est Younes.
C'est Younes. Non, c'était une sacrée tête de mule, sympathique. C'est un monsieur emblématique d'Auxerre.
Ah. Waouh!
Eh ben,
mon grand-père. Je plaisante. Giroud, bien évidemment. Alors, Giroud, faut savoir qu'il est né en 38. Il a connu la guerre, ça veut donc dire que c'est vraiment un vieux. Il a une carrière de joueur. Faut savoir, bon, personne ne s'en souvient. Peut-être Younes, à la limite, par rapport à l'époque. Mais bon, il a vraiment pas été un très très grand footballeur. Et faut savoir que, à 21 ans et demi, tiens, un peu comme Monsieur Lucas, en 61, il devient l'entraîneur de l'AJ Auxerre. Il touche 600 francs par mois. Ça fait 100 euros pour les plus feignants. Ouais. Et il faut savoir que le club est très endetté à l'époque puisqu'il est endetté de 8000 francs. Environ 1500 euros. L'AGA joue en division d'honneur et malheureusement, en 62, Giroud quitte son poste parce qu'il part faire son service militaire avec Younes, dont il est le camarade de champion. En 69, il revient à Auxerre. Il arrive à faire monter le club en division 2 en 74. En 76, il fait venir un jeune de 14 ans chez lui. Il n'y a pas de centre de formation. Bah, ça me rappelle quelque chose, tiens, le fait de faire venir quelqu'un chez soi de 14 ans. Ce jeune homme, c'est Jean-Marc Ferrari. Il décide de le prendre sous son aile. Et là, on imagine ce que c'est que la coloc avec Giroud. Cristalline le matin, cristalline. Pyjama de la GIA tout bleu, un bonnet sur la tête. Et puis, ça doit être vraiment sympa de se réveiller le matin avec Giroud qui te propose d'aller courir aux aurores dans la brume matinale d'Auxerre.
Heureusement, c'est Auxerre, c'est une belle ville.
Ouais, ça doit être très bien. La télévision, tu oublies. Les amourettes, tu oublies. Et puis, la Ferrari, le bling-bling. Non, non. Quand tu as 14 ans, tu te concentres sur le foot, bien manger, t'alimenter, pas de sortie. Voilà. Giroud, c'était quelqu'un vraiment de très, très, très carré. On y reviendra dans une petite heure. Cela dit, son équipe de la GIA, elle gagne. Alors, si on est jeune chez Giroud, il vaut peut-être mieux être sage et écouter parce qu'en gagnant, il récupère plein de sous pour le club. S'il a des sous pour le club, il a des sous pour le centre de formation.
Mmh.
Et la première promotion du centre de formation, on n'a pas besoin d'être expert en foot pour savoir que sortent de là quelques noms un petit peu connus. Cantona,
pas mal.
Boli, Patrice Garande. Bon, là, il faut être un petit peu plus fan.
Ah non! Ah. Il faut pas être fan. C'est un très grand joueur, meilleur buteur du championnat de France et grand entraîneur du Stade Malherbe.
Voilà. Alors, c'est drôle qui Patrice Garland qui entraîne Dijon maintenant. Une voilà. petite pensée pour Mickaël également.
Oui, parce que Toulouse l'a viré comme ça merde.
Et évidemment Jean-Marc Ferrari. Bon, le palmarès derrière, ça devient assez lourd quand même pour un petit club. 94, une Coupe de France. 96, Coupe de France et championnat. Quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Demi-finale de la Ligue des Champions, sorti par le grand Dortmund. Bref, c'est un beau parcours qui finit en 2000 car il part à la retraite. Ah. Il dit être fatigué.
Oh. Oh,
alors, on imagine Giroud. Je crois que je suis un peu fatigué. Alors, ce
quelle
sera
imitation.
Mon interprétation de Giroud.
Ça fait 40
excellent.
Ans que j'entraîne la même équipe.
T'as fait un stage à Abdas Giroud.
Voilà, attends,
non, mais question, enfin, c'est ce que tu es en train de dire, mais il a vraiment entraîné pendant 40, enfin, vraiment extrêmement longtemps. Enfin, ça n'arrivera plus jamais.
Service militaire, Giroud, en effet, c'est 35 années de suite.
Bien
non,
sûr,
c'est fou.
La longévité c'est incroyable. Oui, et Giroud, l'anecdote, c'est où il demandait quand le ballon sortait, quand les mecs tiraient dans le stade, il demandait
aux gens de le ramener.
De ramener parce que ça coûtait cher.
Olivier, je sauterais ce passage un peu plus tard. Merde. Donc, la retraite, il est très fatigué. Il va reprendre en 2002. Le fameux comeback. Alors, c'est vrai qu'il y a des comebacks réussis, des comebacks ratés. Ah. Le comeback de Giroud en 2002, c'est réussi. Il y a un certain Djibril Cissé, Olivier Capot, Philippe Mexès, Jean-Alain Boumsong. Et 2003 et 2005, il gagne encore la Coupe de France.
Incroyable.
On va se repencher un petit peu justement sur ce qu'on retient de Giroud, parce qu'au-delà des petits titres, etc., ça reste un personnage sportif qui est assez sympathique à l'image, à la télé. On le voit assez souvent. Et on voit que c'est quelqu'un qui est assez proche de ses joueurs. Et il les couvre vraiment. Il les materne. On peut voir qu'il a vraiment beaucoup d'amour et d'affection pour ses joueurs. Il y a un soir d'hiver, il y a Djibril Cissé qui vient de marquer une ribambelle de but. Et puis, il est torse nu. Et l'intervieweur lui dit « Alors, vous êtes content et tout ?» Et il y a Giroud qui arrive, qui l'attrape par l'épaule. « Hop, 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 là, il fait froid, tu vas me rentrer à l'intérieur. » Et il dit « Non, non, mais attends, je viens de marquer, j'ai quand même le droit. »
Non, non, non.
Non, non, il le ramène par le col. « Non, tu rentres te changer, on reste pas dehors. » Je me rappelle aussi, alors merci Olivier pour le spoil, pardon, effectivement, il allait chercher les ballons dans les tribunes, parce que c'est vrai que ça coûte cher. Et l'une des anecdotes les plus sympathiques, il faut savoir, donc c'est Lilian Laslonde qui raconte ça, il dit « Nous, on allait en boîte de nuit, puis on avait passé un pacte avec le DJ. Si tu vois Giroud arriver, tu passes telle chanson,
et on sait qu'il
et
faut
nous,
qu'on
on sait
planque.
Que... » Sauf que Giroud, il avait pris les devants. Il était copain avec les videurs de la boîte.
C'est génial.
Enfin, tout ça, c'est vrai. Donc, voilà. Là, on est quand même dans quelqu'un. À côté, je pense que Philippe Lucas qui te crie dessus quand t'es dans l'eau. Là, on est quand même sur quelqu'un qui est capable d'avoir une certaine présence dans ta vie de sportif. Il avait même. Alors, ça, c'est peut-être un mythe, mais. Il paraît qu'il était copain avec les gens qui faisaient les péages des autoroutes pour voir s'ils partaient pas trop loin. Je ne sais pas où est la vérité là-dedans. Le fait est que ça reste un mythe, mais c'est assez joli. C'est un manager donc très proche. C'est vrai que ça clashait pas mal, mais Cissé dira quand même que ça a été comme un père pour lui parce qu'il a fait beaucoup de choses. C'est vraiment le bon camarade des médias aussi. C'est vrai que on aime l'entendre parler. Et puis dans les vestiaires, il y a, je me rappelle de lui un jour un match. L'équipe se prend une tôle monumentale, je ne me rappelle plus contre qui. Ils perdent 3-0 à la mi-temps. Il y a un joueur qui explique, il rentre dans le vestiaire, il claque la porte, il les regarde tous, il dit rien. Ça fait un peu penser au regard de notre papa quand il est un peu contrarié.
Ça fait peur.
Il ne dit rien, enfin, en tout cas le mien. Et là, tu te dis, bon, on sort, on va aller gagner. Voilà. Donc ça, c'est ce genre de personne, parce que ça reste un vieux monsieur, je pense qu'en une pichenette, il est par terre, mais c'est ces gens qui ont un charisme ou... Ils font un peu peur. Et puis bon, la preuve, c'est quand même qu'il avait son jeu de PlayStation, Giroud Manager, sur PlayStation 1. C'était un super jeu.
Qu'est-ce que je l'ai déchiré, ce jeu.
Non, il va faire une seule erreur dans sa carrière, Giroud, c'est le comeback de trop. En 2007, il repart, on va pas refaire. Il y a un épisode complet à faire sur Giroud.
Mais il part en Italie parce qu'il est amoureux d'un
nageur. Voilà, d'un nageur. Non, il revient.
C'est Luigi Malini.
Il prend sa retraite définitive en 2005, je crois. Il revient en 2007. Il signe à Lens. Qu'il fait quelques matchs, il prend que des tôles. Et puis, il le dit, ça je m'en rappelle parce que je l'ai entendu de mes oreilles. J'ai plus la grinta. Donc effectivement, il était temps de partir. Fin, c'est brutal, mais c'est comme ça que tout finit. Avant de nous quitter, je voulais dire quand même merci à quelques vieux athlètes, très rapidement.
Kimi Raikkonen, parce qu'il prend sa retraite cette année et que depuis que je suis enfant, eh ben, il est dans toutes les grilles de Formule 1. Et c'est quand même assez extraordinaire de se dire bah, il est là depuis qu'on est petit.
Mais tu sais, avant, c'était Mika Hakkinen. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais voilà, merci.
Il y aura un Hinen ou un Hinen après.
C'est vrai. C'est sûr. Serena Williams, que je connais depuis que je suis tout petit aussi, elle est toujours là. Ouais. Et puis, elle tape fort dans la balle. Et moi, j'adore quand il y a un petit peu des bourrins qui viennent casser le code de ce sport de gentleman. Ouais. Jeannie Longo, ouais. Elle fait du vélo alors que moi, je suis passé à l'électrique. Elle est bien courageuse quand même. Zlatan, 39 ans. Zlatan. Merci pour tout, tout simplement. Si tu m'entends, je suis disposé à une rencontre, un restaurant, signer des autographes, de ta part. Et notre vétéran Younes pour l'ensemble de son œuvre.
Ouais. Wow. Ah, bravo Younes.
C'est beau.
Merci.
Je t'en prie.
Merci beaucoup Thomas, magnifique première anti-doping de Thomas. Merci Olivier, merci bah Thibaut oui. Pour votre présence.
C'est toujours un plaisir.
Vous savez, pour le salaire, hein, chez mon boulot. Hein.
Et puis bah, on était très contents de vous retrouver et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures.
Oui.
En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Oui, et n'hésitez pas à proposer vos sujets, ça marche bien, on les met dans la petite boîte à sujets.
Ouais.
Un conseil,
peut-être écouter Relire Tintin.
Relire Tintin, bien sûr, et puis 20 minutes avant la fin du monde, Culture 2000, 2 heures de perdu.
Et mettez-nous des étoiles, ça ah, c'est, oui. Il le dit toujours
ah,
Olivier.
Ah oui, mettez des étoiles en nous proposant un
yeux.
Sujet sur iTunes, enfin Apple, et ça nous fait toujours plaisir.
Merci à tous.
Merci
et puis à très bientôt pour un prochain épisode de PO. Bye bye.
Salut.
Where did it go, Joe?